Bon bah de toute façon il n'y a pas de générique, on y va comme ça. Moi je vais faire une mini intro et puis après on y va, on se laisse guider. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Club Démotivé. Aujourd'hui je suis Rojan, je suis très excité aujourd'hui, c'est un épisode qui est cool, c'est un épisode qu'on a, que j'attends depuis un petit moment, ça me fait hyper plaisir. Et donc du coup je suis avec Bertrand du Paul Bert, fondateur du Paul Bert, et Julien que vous avez déjà vu ici dans ce podcast pour un épisode qui lui était consacré. Ça a été un peu mon middleman pour arranger cet épisode, je suis hyper content que ça se fasse. On en a déjà sûrement parlé ici et moi je suis client et admirateur du Paul Bert pour l'institution que c'est, et donc du coup c'est un plaisir de pouvoir, on en parlait un peu avant de commencer l'enregistrement, le but d'aujourd'hui c'est vraiment essayer de rembobiner un max la VHS, la cassette, remonter au début et puis parler des débuts, parler de ce qu'il y avait avant, comment ça a commencé, comment ça a pris de l'ampleur et où ça en est aujourd'hui, et on va essayer de faire ça comme d'habitude calmement et voilà, en posant des petites pauses sur les moments qu'on aime bien, et on verra où tout ça nous mène. Messieurs, bienvenue dans le Club Démotivé.
Merci
beaucoup.
Bah Bertrand, du coup je vais te passer la patate chaude, c'est toi qui vas un peu commencer. Si tu peux nous faire le plaisir de nous raconter un peu le Paul Bert. Donc hein, on le voit tous, on voit où il est situé, on voit très bien l'endroit, ce très beau bistrot. Et je ne sais pas si tu en as déjà parlé avant, en tout cas moi j'ai jamais entendu cette histoire-là, j'aimerais bien l'entendre. On est en quelle année quand tu découvres ce lieu? Comment tu te l'appropries? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Et l'étape numéro 1 de l'histoire du Paul Bert.
Bah, l'étape numéro 1 de l'histoire du Paul Bert, c'est la moitié de ma vie, c'est-à-dire que j'avais fait plein de trucs avant et j'avais décidé de faire la restauration avec la jeune femme qui partageait ma vie à ce moment-là et qui continue aujourd'hui d'ailleurs. Et on cherchait une activité à faire ensemble et à faire en couple,
okay.
C'est-à-dire vraiment en essayant de passer nos journées et nos soirées ensemble. Et juste derrière chez moi, il y avait ce bistrot qui était fermé, il y avait un garçon devant la porte... Kabyle, qui était en train de fumer sa cigarette et le truc avait l'air fermé. Et je me dis, ce bistrot, il a l'air rigolo. Je vais voir le mec, il me dit, moi, je suis en faillite, c'est plus chez moi, je m'en vais. Donc, je vais voir la concierge et elle me dit, écoutez, le propriétaire, il est à Saint-Germain-en-Laye, vous devriez l'appeler, c'est un vieil Auvergnat, on sait jamais.
Incroyable.
Donc, elle me donne son numéro et je l'appelle sur le champ. Et le type me fait, t'es d'où? Il me dit, moi, je suis Aveyronnais, t'es d'où? Ben, je dis, moi, je suis moitié parisien, moitié breton. Il me fait, bon, ça va, je suis à Rueil-Malmaison, t'as qu'à venir me voir.
Ben,
je dis, oui, ben, on va prendre rendez-vous dans la semaine. Il me fait, t'es con ou quoi? Si tu veux un restaurant, tu viens... Il me dit, tu viens tout de suite, tu prends le RER, et dans 45 minutes, je suis sur le quai, je t'attends.
Non. Voilà.
C'était quelle année, ça?
Attends. C'était 97.
Oh la vache.
Et 45 minutes après, on avait signé un protocole d'accord, c'était écrit, je loue le restaurant à Bertrand Aubouaneau, point.
Non.
Tu l'as pas quelque part, c'est
non,
pas...
Non,
ah, c'est
pas,
sublime.
C'est pas gardé.
C'est sublime.
Ce qui est drôle, si tu veux, c'est que ce type qui est malheureusement décédé aujourd'hui est devenu. Il a décidé qu'on était potes, quoi.
Ok.
Du jour au lendemain, et quand on a fait les travaux, c'était un peu compliqué. On était un peu raide avec ma femme sur les bons côtés de la chose. Et donc on n'avait pas beaucoup d'argent. Il fallait trouver toujours des trucs, tu vois, pour faire les travaux, c'était compliqué. Tous les mercredis, il venait me voir, il me disait, bon, allez, maintenant, ça va, arrête de faire tes travaux et viens déjeuner avec moi. Et on allait tous les mercredis midi à la maison de l'Aveyron.
Wow.
Où il y avait une bande de restaurateurs aveyronnais, du plus chic au moins chic. Il m'a introduit là-dedans et on mangeait la Ligo tous les mercredis.
Mais incroyable. Voilà. Vous êtes devenu instantanément pote, quoi.
Ouais.
C'est fou.
Mais moi, dans ma vie, ça m'est arrivé souvent, ça.
Ouais. Ouais. T'as un bon rapport avec les gens assez spontanément?
Non, j'ai un très mauvais rapport avec les gens, mais il y en a quelques-uns avec qui ça se passe bien.
Ah, les bons, apparemment. C'est allé vite. Trop vite? T'étais pas prêt à ce que ça se passe si vite ou...
Non, j'étais super content.
Ouais.
Je pense qu'il a été super content qu'on voit qu'on remette son bistrot dans le côté aveyronnais, auvergnat.
Ouais.
Qu'on lui redonne une vie qu'il avait perdue.
Ouais. Et il y avait beaucoup à faire quand vous l'avez récupéré? Il était fatigué?
Il n'y avait plus rien. Les murs étaient peints en rose.
C'était
un restaurant... couscous algérien, mais très bas de gamme, avec un vieux flipper.
Ah ouais.
C'était vraiment pas en état, quoi.
Oh la vache. Et toi, tu voulais faire un bistrot, c'était avec ta compagne, du coup, c'était le style, vous l'aviez déjà établi, ce serait un bistrot.
Moi, j'ai un rapport compliqué avec la nourriture.
Ok.
J'ai voyagé pendant 20 ans de ma vie dans les pays les plus pourris que je puisse imaginer. J'ai toujours cherché, quand j'y étais, l'endroit où, si je revenais, on allait me reconnaître où je pouvais manger comme à la maison.
Okay.
En ne me posant pas de questions de savoir si c'était très bon, si c'était local, pas local, etc. Une espèce de salle à manger, quoi.
Tu mettais un accent sur l'expérience, un peu comment l'accueil.
Oui, j'ai des souvenirs d'enfant, tu vois, où avec mon père, on partait en vacances, on s'arrêtait toujours au même. J'ai jamais retrouvé l'endroit, mais je sais que c'était à Laval, et il y avait un restaurant où, quand on rentrait, je vois encore les nappes à carreaux rouges, l'odeur, la tête de la bonne femme.
Ouais, tu vois, voilà, ouais.
Ça m'avait marqué dans mon enfance, ouais. Ce truc-là, et ce que j'ai toujours cherché à faire.
Ok. Un lieu, un endroit, un vrai endroit, quoi. Ouais. Incroyable, c'est ouf cette histoire de vente comme ça, de passation de fonds. C'est...
Mais l'histoire elle est encore longue, hein, parce que du coup tu as annexé aussi le petit restaurant.
Après j'ai annexé une partie, il y avait un restaurant chinois, vietnamien qui était collé à chez moi.
D'accord.
Et c'est peut-être pour ça que finalement avec Julien on a des rapports formidables, c'est ouais. Peut-être ça.
On va savoir.
Et dans ce petit restaurant vietnamien il y avait un couple et j'y allais un jour sur deux, j'allais déjeuner là et elle faisait des faux, là, tu sais.
Ouais, bien
des
sûr.
Soupes, hein, des machins et tout.
Ouais.
Et quand j'avais pas envie de déjeuner au restaurant, j'allais chez elle.
Okay.
Et un matin, elle est arrivée chez moi, elle m'a dit « Bon, je m'en vais, mon mari joue trop aux courses, il perd trop d'argent, j'arrête de travailler, je te vends le restaurant. »
Mais non.
Et écoute, non, parce que c'est pas le même immeuble, c'est collé, c'est vrai, mais c'est pas le même immeuble.
Ouais.
C'est un peu compliqué, tout ça et tout. Et elle me dit « Viens voir et tout. » Donc avec elle, je retourne dans le resto. Elle me dit « Regarde, là, sous le contreplaqué, comment c'est ?» Elle soulève le contreplaqué, il y avait tous les carrelages et les faïences anciennes de 1900 qu'elle n'avait pas enlevées. Et comme ils n'avaient pas de sous quand ils sont arrivés,
ils ont plaqué.
Ils ont plaqué devant.
Waouh!
Ça, c'est la pièce de gauche.
Ok, ouais.
Et là, je me suis dit, je ne peux pas laisser passer l'histoire. On lui a acheté dans la journée.
Non! Ah, ça va vite
après,
chez vous.
Après, on a fait un an de travaux.
Ah ouais?
Pour le mettre dans l'état où c'est aujourd'hui, c'était vraiment crasse-pouec.
C'est la pièce qui part en longueur un petit c'est peu ça, comme ça. Ah ouais, tu dirais pas. Elle est belle ce segment-là.
Dans cette pièce, il y avait, tu vois, deux petites salles avec trois tables, une cuisine et une chambre au fond.
Waouh. Et c'était pas porteur entre les deux immeubles?
Si.
Ah, il a fallu faire un gros truc.
Ça, je sais faire.
Ok, ça, tu sais faire. Ouais, de ton ancienne vie.
Je fais les trous partout. Non, mais je fais les trous partout.
Ok. On va s'entendre.
C'est en résonance à ça qu'on a fait la journée.
C'est pour ça, c'est ce que je te disais, oui.
Ouais, où le bistrot Paul Bert avec Family First et nos amis chefs de New York, House Dark Beer, on est venu faire une journée spéciale où Bertrand accueille quand même jamais personne.
Bah oui, je sais que c'est
un lieu qui est quand même qui reste tel quel tous les jours.
C'est ouais, ouais, temporel, ouais.
Tu vois,
ouais.
Le fait qu'on l'ait bougé un petit peu sur un jour, deux services du midi et du soir sur la cuisine vietnamienne, mais avec tous les codes de la carte habituelle du Paul Bert réinterprété avec un petit twist vietnamien. Un peu en écho, résonance, mémoire, hommage à cette petite histoire.
C'est
quoi.
Incroyable. Et vous avez fait le truc dans la journée. T'as vu l'ancienne déco et tu t'es dit, vas-y.
J'ai dit, je te l'achète. Wow. D'abord, c'était pas très cher, je reconnais.
Ouais.
Elle m'a vendu que le fond. Hein.
Ouais.
Elle m'a vendu le fond et je me suis dit, quoi que j'en fasse, j'en ferai quelque chose. J'étais pas sûr d'avoir le droit de percer. Je me suis dit, je ferai une cave à vin. Je sais qu'il fallait pas le laisser passer.
Wow. Et ça, on est en quelle année pour cette extension?
En 2005, je crois.
Ah, donc le Paul Bert, il a tourné quand même un moment seulement.
Peut-être même 2010.
On se comprend, mais.
Oui.
Mais du coup, la taille de la.
On a doublé le nombre de couverts.
Ah, donc j'allais te demander, et du coup, la taille de la cuisine a grandi aussi? Vous avez envoyé le même nombre de couverts?
On a augmenté le nombre de personnes en cuisine, mais on a un peu changé la disposition. Mais...
Ok, ça passe.
Alors, ça a été compliqué au début.
Ouais, j'imagine, ouais.
Tout donc, moi j'ai le même chef depuis 20 ans.
Incroyable. Ça, c'est incroyable aussi. Ah ouais, on en parlera. Ok. Donc 97, le premier espace, l'agrandissement en 2005. Il y avait un moment sur ton histoire du début où je voulais revenir. Tu vois ce resto vide. Ouais, et donc du coup, toi, tu disais que c'est la moitié de ta vie. Avant, il y avait quelque chose qui te prédisposait à ça ou c'est vraiment un vrai 180?
Alors, dans la période précédente, quelques années avant, j'avais mis un peu d'argent avec une amie dans un restaurant à Paris qui s'appelait Les Voyageurs.
D'accord.
C'était rue Keller, qui est devenu le Souk maintenant, je ne sais pas si tu vois où c'est.
Non, ça ne me dit rien.
C'était un rue Keller.
Ok.
Où ça s'est plutôt mal passé. Moi, je n'y connaissais rien, ce n'était pas mon métier.
Ouais.
J'avais un pote associé qui était un peu voyou. Enfin, c'était okay. compliqué. Mais j'avais pris goût à l'histoire. Quoi.
Voilà, ok. Voilà. Ça t'avait plu quand même, malgré les galères.
Voilà, on avait quand même déposé le bilan, on avait payé tout le monde. Enfin, toi, ce n'était pas si simple.
Ah ouais.
Mais en fait, si tu veux, quand j'ai eu cette rupture là, et que donc j'avais rencontré cette jeune femme là, qui s'appelait Gwenaël Cadoret, et qui je vis toujours d'ailleurs, heureusement, moi j'avais deux options dans ma vie. J'avais changé de vie, soit je repartais dans ce que je faisais avant comme boulot qui était un peu compliqué et qui se passait quand même que dans des pays pas forcément sympathiques.
Okay.
Et elle m'a dit, moi, jamais.
Okay.
Donc, il fallait que je trouve autre chose. J'étais plus capable d'aller travailler chez les gens, okay, pour cette raison.
Okay.
Donc, on s'est dit, on va faire de la restauration.
Cool. C'est arrivé comme ça. Et elle avait un pied dedans ou pas du tout?
Pas du tout.
Ok, très bien.
Elle travaillait dans les fringues, mais, okay, mais elle avait, sa famille avait un pied important dans la restauration, puisqu'ils sont ostréiculteurs en Bretagne.
Ok.
Et exportateurs d'huile dans le monde entier. Enfin, elle avait une culture de.
Il y avait quand même un.
Produits et sur ces trucs-là.
Ouais. Et du coup, si j'ai tout bien compris, les cahiers.
Donc.
Ouais, cette histoire-là aussi.
Voilà, donc à peu près juste 2 ans après l'ouverture du Pôle Bert.
Ouais.
Elle avait envie de faire des huiles, d'essayer de montrer ce qu'elle savait faire vraiment qui était au fond d'elle. Et il y avait un local à vendre pas cher à côté qu'on a acheté. Et on a fait les cahiers.
Ok. Et ça, c'est elle qui l'a.
On l'a d'abord mis en traiteur.
Ouais. Ah, ok, ouais.
Ça a été compliqué.
Ouais.
Et on l'a transformé en cahiers.
Ok.
Et elle s'en occupe plus que moi.
C'est elle qui gère. J'ai l'impression que j'ai eu quand j'ai regardé un peu. Ouais.
C'est la même société. On est totalement associés.
D'accord.
Mais les gestions sont.
Ok. Incroyable. Et donc, du coup, est-ce que tu te rappelles, moi j'ai du mal perso en ce qui me concerne pour nous, mais le premier jour, tu sais, vous rachetez ce lieu, ça va très vite, 45 minutes le RER, etc. Des travaux, les rendez-vous tous les mercredis avec ce gars-là, et un jour les travaux se terminent, les gars remballent le matos, ils partent, et là vous recevez les premiers clients. Tu te rappelles un peu de cette journée-là ou pas du tout?
Oui, enfin, je me rappelle de plein de trucs de ce moment-là. Enfin, je te donne une anecdote qui m'a vraiment marqué. 10 jours avant l'ouverture, mm-hmm, était raide comme des passe lacets. J'avais fait beaucoup de travaux, etc., etc. Il fallait que j'achète la vaisselle et la verrerie. J'avais pas une thune. Et j'ai un pote qui est antiquaire, qui est un de mes meilleurs potes, qui était antiquaire à Béthune. Et je me dis, je vais aller le taxer de 10 000 balles. C'était en francs à l'époque, doit être 40 000 balles, pour acheter la verrerie et machin, etc. Donc, je l'appelle, on part en week-end chez lui. Et il me raconte tellement de merde qu'il a eu depuis 15 jours que je peux pas aller manger du pognon. Je veux dire. C'est en dehors de ma. C'est pas possible. Quoi. Et un jour, il me fait, alors, t'ouvres quand? Ben, je dis, j'ouvre dans 8 jours, mais il faut quand j'achète la vaisselle et les verres. Fais de la vaisselle et des verres? Ah, j'ai dit, oui. Ben, il me dit, t'en veux? Je dis, pourquoi tu me dis ça? Ben, il me dit, mon père était grossiste en verrerie, en vaisselle en 1930. J'en ai des caves pleines.
Mais non.
Et on est reparti avec Gwen. On a fait 2 allers-retours à Paris avec sa BM.
Non.
Pour ramener. Que des assiettes 1930, des verres, etc., etc.
Mais
comme
c'est
quoi, tu as dans la vie, il y a des trucs incroyables.
C'est pas possible. Incroyable. C'est dingue.
Et on a ouvert ce bistrot que avec de la vaisselle ancienne.
C'est
qui
dingue.
Était du deuxième choix, donc ils avaient tout un petit défaut,
ouais,
des verres aussi.
Et
c'était le métier de son père à lui.
Mais c'est ouf, ouais. Incroyable.
Et ce bistrot, on a toujours eu des espèces d'aventures comme ça.
Ouais.
Ça a été jalonné d'histoires.
Bon endroit, bon moment. Ouais. Incroyable. Voilà. Incroyable.
Donc après, oui, je me rappelle très bien de l'ouverture. Hein, je veux dire, l'ouverture, on a fait. Alors moi, j'étais. On avait un associé dans cette affaire.
Ok.
Qui s'appelait Sébastien Alessandri. Lui aussi, qui est malheureusement décédé. Et qui était un très, très bon chef, très connu à Paris. Qui avait eu juste. Qui était un flambeur, pas possible. Il avait fait faillite 2 ou 3 fois. Il avait eu un restaurant très emblématique à l'époque qui s'appelait le Cabanon du Maître Nageur.
Okay.
Il avait été le premier chef dans les années 83-84 à mettre ses serveurs en kimono, ses cuisiniers en kimono.
Mais non.
C'était totalement révolutionnaire à l'époque. Et c'était un pote à moi, donc quand il vient travailler avec nous et on raconte qu'on veut faire un resto, il me dit, oh, je vais le faire avec vous, machin, etc. etc. Okay. Et le jour où je signe le Pôle Bert, donc 15 jours après, tu vois l'histoire que je t'ai racontée.
Ouais.
Je le vois, il est un peu blanc, et il me fait bon, on va chez le notaire signer. Je dis oui, il me dit bah, écoute, moi, je t'attends au café en bas parce que je ne vais pas signer avec vous. Je lui dis pourquoi tu ne veux pas signer? Tous les papiers sont faits, un tiers et tout. Il me dit ouais, mais je ne vais pas signer parce que je ne vais pas tarder à m'en aller, j'ai le crabe. Et je lui dis Sébastien, crabe ou pas, viens avec nous. Quoi.
Ouais.
Donc il n'a jamais voulu signer.
Wow.
Il a ouvert avec nous comme chef, et 2 ans après, c'était fini.
Mais non!
C'était un super mec.
Oh mince! Ah ouais, c'est dingue!
Et je vois sa tête en train de me dire, en train de siroter son café, juste pour voir la tête que j'avais à avoir. Me dire, je peux pas parce que j'ai le crabe. Quoi.
C'est un truc,
il avait 35 ans.
Mais non! Ah la vache!
Ah, mais les bistrots, c'est des lieux, hein, c'est des histoires.
Ouais. Incroyable. Ah, c'est fou. Et donc, du coup, il fait l'ouverture quand même avec
il fait
vous.
L'ouverture, on fait un carton.
Ça cartonne direct.
Direct. Alors, à déjeuner, pas à dîner.
Ouais.
traîner les gens à l'époque dans le 11e, tu vois. C'était,
c'était comment ça? C'était pas...
Le quartier, il était chelou.
Ouais.
C'était pas si simple. Hein.
Ouais.
On faisait nos 50 couverts à midi sans problème. Dès le début, on avait un menu un peu bistronomique pour l'époque, etc.
Ok.
Le soir, quand on faisait 5 couverts, 10 couverts, 12 couverts, 15 couverts, c'était chaud.
Ah ouais.
Je me rappelle avec Gwen, je crois qu'au bout d'un an, on a fêté les premiers 10 000 balles qu'on faisait en francs. C'était un truc formidable.
Ouais. Et vous étiez derrière, en plus, vous habitiez derrière, du coup
Moi, j'habite sur Beauvais-Voltaire.
D'accord, ok, ouais. Et donc, c'était quand même votre quartier et...
Ouais.
Ok, mais incroyable.
C'était compliqué à l'époque.
Ouais.
La rue Paul-Bert, tu vois, il y avait plein de gamins avec des chiens. Il y avait un trafic de drogue sur le square qui est juste derrière. Très chaud, c'était compliqué.
C'est bien d'entendre ça, parce qu'on t'entend toujours qu'avant, la restauration, c'était facile. Avant, machin, je sais pas comment vous faites aujourd'hui, nous, à l'époque. C'est, tu as l'impression que c'était une sorte de...
Non, mais c'était plus facile quand même, parce que tu trouvais du personnel sans problème.
Ouais, d'accord.
Sur les produits, les prix n'étaient pas les mêmes.
Ouais, c'est vrai.
Là, c'était plus facile.
Oui, sur certains trucs, je pense que c'était plus simple. Ouais.
C'était moins carré,
okay.
Plus facile.
Oui, c'était un petit peu plus rock'n'roll, mais plus simple. Et à quel moment ça a commencé à être un peu moins tendu? Les gens ont commencé à venir vraiment?
Quand on a commencé à avoir des articles dans la presse, on finalement, au bout d'un an et demi, on en a eu pas mal.
Ok.
Le premier qu'on a eu, c'est avec Le Monde. Comme il s'appelle Ribaud, là, j'ai mis son prénom, Jean-Claude Ribaud,
okay.
Qui était journaliste du Monde, qui nous a fait. Alors, c'est très drôle parce que c'était pas du tout notre philosophie à l'époque, c'est devenu notre plan emblématique, mais ça ne l'était pas du tout à l'époque, c'était sur le filet de bœuf au poivre. Et ce jour-là, dans Le Monde, tout d'un coup, j'ai un pote qui vient me voir et qui me fait T'as du monde ce soir? J'ai fait Non. Bah, il me dit Fais gaffe parce qu'il y a un article dans Le Monde.
Oh.
Il y a bon. Et à l'époque, je peux dire qu'il y a un article dans Le Monde, dans l'heure qui suivait.
J'allais te dire.
Ça te remplissait le truc en une heure.
C'est l'époque où la presse...
C'était sur le filet de bœuf au poivre qu'on avait ce jour-là.
Ok.
La semaine d'avant, et que le mec avait... Que le journaliste avait goûté, qu'il avait enthousiasmé, mais qui n'était pas du tout celui qu'on fait aujourd'hui.
Ok. Et du coup...
On l'a refait après pour d'autres raisons, beaucoup plus tard, mais à cette époque-là, on l'avait fait comme un plat du jour, sans idée particulière.
Ouais, bien sûr. Et c'est, effectivement, il y a eu du monde ce soir-là, c'était genre...
C'était bien craqué.
Oh la vache. C'est dingue. Hein.
La presse avait à l'époque un pouvoir qu'elle n'a plus aujourd'hui.
Ouais, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est.
Il n'y avait pas de réseaux sociaux, hein, ça n'existait pas.
Bah oui, c'est ça.
C'est l'ancêtre de TikTok.
Ouais.
Bah aujourd'hui, c'est les TikTok qui remplissent les restaurants, malheureusement.
Bien sûr.
Enfin,
oui, c'est comme ça. Oui.
Faire connaître une affaire à l'époque, ouais, c'était. Il fallait faire le taf, quoi. Il fallait juste faire le taf. Et
après, c'est vrai qu'on a eu plein de critiques gastronomiques les uns derrière les autres. On a eu François Simon, avec qui je suis devenu très lié. Voilà, et puis c'est parti. Mais
ouais.
C'est parti. C'était. Ça marchait très bien, mais c'était pas la folie qu'il y a aujourd'hui. Hein.
Mais c'est pas mal aussi une croissance un peu en pente douce comme ça, non? Plutôt qu'une espèce de grosse explosion de notoriété soudaine. Ça, vous avez pu prendre vos marques, du coup, vous avez pu un peu affiner votre carte, ou alors il n'y avait pas vraiment ce besoin?
Non, parce que j'ai jamais vraiment fait attention à ça. Moi, j'ai toujours fait une carte de produits que j'aimais bien et que j'avais envie de manger. Ça m'a jamais. C'est jamais la presse qui m'a poussé à faire un truc particulier.
Ouais.
C'est plutôt des potes qui m'ont trouvé, toi. Moi, je peux te raconter d'autres histoires. Hein. Je veux dire, moi, je suis aujourd'hui. Donc, un jour, j'ai un pote à moi qui s'appelait Michel Picard, qui était un mec incroyable, qui vient avec un vigneron corse. Il vient avec ce vigneron corse, et à ma carte, il y a de la sèche à l'ajaxienne. Et le mec, il me regarde d'un air un peu torve, et il me fait T'es corse? Je fais Non, je suis pas corse, avec un peu de foutre. Ben, il me fait Pourquoi il y a de la sèche à l'ajaxienne si t'es pas corse? Et je lui dis, écoute, c'est un pote à moi qui m'a filé la recette. J'ai décidé qu'il y aurait toujours de la sèche à l'ajaxienne. Il dit rien. Il la prend. Il la goûte. Il fait... C'est Sébastien Alessandri qui t'a donné la recette.
Non.
Je fais oui. Je sais qu'il est mort. Je fais oui. C'était, en fait, le vigneron, c'était Arena. Et on est devenus, en 20 secondes, les meilleurs amis du monde.
Mais incroyable.
Incroyable, hein.
Oh.
Et Antoine, tu lui racontes aujourd'hui, tu as raconté exactement ce que je te dis, quoi.
Ça fait une impression de... Ouais, le monde est tout petit, quoi.
Oh,
c'est ouf.
Incroyable.
Mais le lieu était prédisposé à ça aussi, apparemment.
Oui, mais je pense que le lieu était prédisposé à ça. Les gens qui sont dedans sont prédisposés à ça.
Ouais.
Et moi, je pense que c'est le grand avantage... C'est le truc majeur de la restauration. C'est cette bienveillance, cette convivialité qui fait que les gens se parlent, quoi.
C'est clair.
Moi, j'ai fait d'autres métiers où les gens se parlaient pas. Quoi.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord.
J'ai une question pour toi, Bertrand. Qu'est-ce qui faisait à l'époque, du coup, tu ouvres? Qu'est-ce qui faisait ta différence, du coup? Comment la presse te présentait? C'était quoi, une cuisine de produits? C'était...
Déjà, il y a un truc qui les scotchait, c'est qu'on commençait déjà à ne parler que des restaurants de chefs. Moi, je suis pas chef. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était déjà une espèce de décalage par rapport à tout ce que, d'ailleurs, à tout ce qu'a vendu après le fooding et autres. Mmh. Aujourd'hui, tu entends des restaurateurs, c'est pas des chefs.
Ouais, je suis d'accord.
Et on a une grande différence avec un restaurant de chef. J'en ai parlé mille fois avec plein de chefs qui sont des potes à moi. C'est-à-dire, le chef, il veut imposer à ses clients sa vision de la cuisine. Et moi, je n'impose rien à mes clients.
Ouais.
Je leur essaie de leur donner un lieu bienveillant qui les accueille. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose.
Ouais, ouais, je suis d'accord. T'as créé un lieu avant tout et sur ce lieu est venu de la cuisine.
Voilà.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est, j'aime bien cette vision. Et ça veut dire que du coup, par exemple, quand t'as monté ton équipe en salle, tu les as briefés, t'as dit ici ça se passera comme ça, on accueillera
jamais,
comme ça. Non. Ça s'est fait un peu.
Jamais. D'abord, jusqu'à maintenant, j'y suis un peu moins quand même. Pendant des années, j'y étais vraiment tout le temps, tous les jours, midi et soir. Et soit il y avait deux options. Soit ils faisaient à peu près comme moi,
ouais,
ça se passait bien. Soit ouais, ils se faisaient pas comme moi et ça ne durait pas.
Ouais, 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 ouais.
Donc voilà.
Donc t'as juste montré le chemin et ils ont suivi, quoi. Ouais.
T'as fait c'est du service. T'as fait du service au début.
Bien sûr. Hein. Je fais du service, je fais du bar, j'ai lavé des milliers de verres. Évidemment.
Donc au début, les premières années du Bistrot Paul Bert, il y avait
jusqu'à il y a 10 ans. Hein.
Il y avait Gwen et toi en salle.
La première année au Paul Bert, il y avait Gwen, moi et une copine.
Ah ouais. Ça devait envoyer. Hein.
Oui, c'était vache. Cool. Ouais.
Ouais, ça...
Moi, je découpais les. Par exemple, on faisait les côtes de bœuf sur des planches, et c'est moi qui venais les couper à table, toujours.
Ouais, ça, c'est cool, ça.
Ce qu'on ne fait plus. On n'a plus le temps, etc.
Ouais.
On amenait la grande planche, machin, j'avais le couteau japonais, clac-clac, on faisait le tour, on slicait, en salle.
Tu mettais le sel.
J'ai pas encore le truc et puis la feuille d'or
c'est
par-dessus.
C'est toi qui as inventé ça en fait.
Quel usurpateur,
le cinglé là, le ouais, turc là.
On n'entend plus trop parler d'ailleurs, tant mieux. Ok. Et donc du coup, je déroule un peu le fil. Et donc du coup, c'est bien plus tard qu'est arrivé un peu le resto où qui vous a un peu pas mal réuni, qui était le 6, mais avant, il y a eu un moment avant. Enfin, raconte l'histoire un peu de cette. Tu t'es un peu étalé dans la rue avec les années qui se sont passées. Tu veux raconter un peu la chronologie, les raisons derrière. C'est encore des accidents
si
de fou.
Si tu veux, pour quand même pour finir le microcosme du Paul Bert. Il y a quelqu'un que j'ai croisé et qui n'est plus aujourd'hui, mais comme je suis un peu vieux et finalement ils finissent par tous se barrer avant moi, ils doivent m'attendre quelque part. Mais qui est un mec qui s'appelle Michel Picard, qui avait un restaurant, qui a eu deux restaurants à Paris emblématiques, qui était d'abord d'abord chez Astier et après le Villaret. Monsieur âgé déjà, qui est devenu pote avec moi très vite aussi, et qui m'a appris ce métier. Okay. Je ne connaissais rien, quoi, tu vois, j'avais jamais bu un vin nature, rien. Et ce mec s'est installé chez moi, dans ma vie, venu en vacances avec nous, et il nous a appris, tu vois, quand tout d'un coup il me disait ah, ben, t'as pas de Gravenon à la carte, comment ça se fait que t'as pas de Gravenon à la carte? Il appelait Michel Gravenon, il disait écoute, maintenant t'as 24 heures pour lui envoyer du vin.
Wow. Sinon,
je viens plus jamais, j'en boirai plus jamais. des trucs comme ça, on en a eu des dizaines et des dizaines. Et il a formaté ce restaurant comme il avait formaté Astier et le Villaret, et c'est lui qui m'a donné l'énergie de jamais le transformer.
Ok.
Tu vois, justement, de garder une espèce de colonne vertébrale.
Ouais.
Et pas changer les trucs.
C'est important.
Voilà.
Ok. Et attends, ce gars-là, il sort d'où? Du coup, c'est un client qui s'est pris d'affection pour le lieu ou
non, c'est assez drôle parce qu'il avait aussi une double vie. Il avait d'abord il avait une boîte d'outillage avant. Après, il a acheté chez Astier et puis le Villaret.
D'accord.
Il a à chaque fois transmis ses restaurants à son personnel en leur faisant des crédits vendeurs, etc. Donc, tu vois, c'est un mec qui avait une.
Ouais, il avait.
Il était célibataire sans enfant.
Ok.
Et quand on s'est rencontrés, il a trouvé que l'endroit était, je pense qu'il l'a trouvé formidable. Qu'il a essayé de m'imprimer cette histoire que moi je connaissais pas bien sur la bistrologie parisienne, sur les produits, etc. C'était pas mon métier.
Ouais.
J'arrivais là-dedans comme un cheveu sur la soupe.
Ouais.
C'est le cas de le dire.
T'as bluffé alors au début, t'es passé un peu au bluff. Enfin, t'as appris sur le tas, comme on dit. C'était quoi?
Moi je suis un peu comme une éponge.
Ouais.
Quand je trouve un mec qui est plus malin que moi, qui me raconte des trucs, je discute même pas, je fais.
C'est ça que
j'ai suivi Julien sur des trucs
ouais,
que je ne connaissais pas et sans me les imposer, j'ai pas essayé de sortir du cadre. Quoi,
ouais,
tu vois,
ouais.
C'est la confiance.
Après. J'allais dire, oui, c'est une sorte de confiance.
Sûr,
ouais.
Bien sûr.
On peut faire un saut dans le futur. C'est comment vous deux, en fait? Parce que c'est vrai que.
Bah, peut-être que tu peux raconter l'histoire du 6 et de la cave pour compléter le.
Ouais, raconte-nous un peu tout. Je sais pas, c'est intéressant.
Moi, je suis boulimique, c'est-à-dire que une fois que les cahiers et le Paul Bert faisaient un carton. Je me disais, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois.
Ouais.
Donc, voilà. J'avais pas envie de changer de rue, j'avais pas envie de changer de trottoir. Et il y avait un local vide au bout de la rue, qui s'appelait le 6, qui était à vendre. J'ai beaucoup bataillé pour l'acheter. J'aurais même fait de me casser une jambe ce jour-là, mais quand même, j'ai fini par l'acheter. Après, on ne savait pas quoi faire dedans, etc., etc. Je te la fais courte. Après, on a eu un gros projet fait avec Villemotte qui ne s'est pas fait. Après, j'ai pris un autre architecte et j'avais rencontré un Canadien qui s'appelait Louis-Philippe Riel, qui avait travaillé chez moi. Je l'avais trouvé génial, absolument génial. Je l'appelle, il est au Canada, et je lui dis, écoute, voilà, j'ai un restaurant qu'on est en train de fabriquer. Si tu veux, si tu veux être chef, je t'embarque là-dedans. Il m'a dit oui. Et c'est avec lui qu'on a ouvert le 6 et on a fait un carton plein pendant 2 ans et demi. Et après, il est parti vers d'autres aventures, mais c'est avec lui qu'on a ouvert le 6.
Ok.
Et c'est lui maintenant qui a l'auberge de la Roche.
Ouais, bien sûr.
Et qui vient de rentrer depuis hier dans la liste des 1000 restaurants, les meilleurs restaurants du monde.
Ça, je savais pas.
Il a eu le prix hier.
C'est vrai que c'est bon, la vache que c'est bon. T'y allais, Jus, ou quoi ?
Non, j'ai pas été encore.
T'as pas été encore ? Tu vas y aller ?
Avant l'ouverture.
Oui, sûrement. Ouais.
C'est très sympa. Franchement, c'est bon. Ah, la vache.
C'est un des plus beaux projets.
Oui.
Ouais. En plus, là, ils ont fait les saunas, enfin, un truc un peu de bain et tout. Moi, j'ai envie d'y retourner pour ça.
Et
ouais.
Louis, nous, la sortie de l'anonymat, je veux dire.
Ouais.
Il est rentré chez nous.
Et puis, c'est parti, quoi.
Et c'est parti.
Waouh.
Et là, attends, il a bossé aussi à la. Cave Paul Bert, c'est un projet que vous avez monté un peu.
Là, c'est un peu plus compliqué.
Ensemble,
ouais.
C'est bien que c'est compliqué, vas-y.
Donc, je te fais l'histoire. Donc, tout d'un coup, Louis-Philippe, il me dit j'arrête le 6, voilà, ma femme ceci, ma femme cela, qui n'est pas la jeune femme avec qui il est maintenant.
D'accord.
Donc, elle veut que je reparte au Canada, je pars au Canada, etc. Donc, il repart, il trouve un autre chef japonais formidable, qui est Kosuke, et il s'en va. Et moi, le fooding me propose de faire un truc qui s'appelait les faubourgs, les bistrots du faubourg, un truc comme ça.
Ah, pas souvenir de ça.
C'était Opus. Il fallait faire, toi, 2000 repas, 2000 plats dans la soirée, etc. J'avais personne pour le faire. Et en même temps, j'avais un cousin qui s'appelle Jérôme Deschamps, qui était patron de l'Opéra Comique, qui m'appelle et qui me dit « Je voudrais que tu m'organises un dîner pour François Hollande dans mon bureau à l'Opéra Comique pour 15 personnes pour mon départ du théâtre. »
Ok.
Je me dis « Mais qui est-ce qui peut me faire ça ?» Qui peut à la fois me faire 500 couverts au puce et 3 jours après, 12 couverts dans un bureau. Quoi.
Ouais.
Je me dis « Louis-Philippe !» Donc je l'appelle, je lui dis qu'est-ce que tu fais ? Il ne fait rien. Je te prends un billet d'avion, on fait une semaine, je te paye l'hôtel, machin et tout, et puis on voit comment on te rémunère. Et on fait le truc des puces, on fait le truc de François Hollande. Donc je la fais courte, les deux se passent formidables, machin et tout. Et puis il reprenait son avion normalement le mardi matin, et quand j'arrive au Paul Bert pour boire mon café à 10h, je vois mon Louis-Philippe assis sur la terrasse avec son sac à dos. Je fais « Louis, qu'est-ce que tu fais là ?» Ah, il me fait « Il faut que je te parle. » Je pars plus.
Wow.
Je fais pourquoi ? Il dit je suis amoureux. Je fais deux fois, ça fait beaucoup. Il dit je suis amoureux d'une Française, j'ai décidé de rester à Paris.
Wow.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ? J'ai fait fini, Louis. Il vous voyait. Je dis Louis, c'est un peu compliqué. T'es parti du 6, on a mis un nouveau chef, je ne veux pas virer le mec parce que tu fais. Tu vois.
Ah oui, oui.
Il fait oui, mais je sais que vous avez mis la main sur un tout petit local à côté. Et si vous voulez, on le fait ensemble. J'ai dit oui, pourquoi pas. Donc je lui file carte blanche pour nous faire la cave, qui fabrique de A à Z avec un copain à nous qui s'appelle Simon.
Ouais.
Qui, je sais pas si t'as connu.
Ouais, si, très bien.
Tu vois qui c'est. Il me fabrique le truc, nickel, on ouvre, on fait carton plein avec les tapas de Louis-Philippe en 15 jours. Et le 15e jour, il me vient me voir, il fait « Faut que je te parle ». Je suis « Oh putain
ah, !» Ça, c'est le pire mot que tu peux avoir pour un patron restaurateur. « Faut que je te parle !»
Comment ça m'emmerder ?
Ah, ça te creux.
Il me dit « Je peux plus faire de la restauration, j'arrête, ça me fait trop chier. »
Oh putain !
Je dis « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il me fait « Je pars m'associer avec Simon pour faire du métal. »
On se souvient de ça. Tu
te rappelles de ça ?
Ouais.
Et il m'a planté, tranquille, à la cave.
Ah la vache !
Donc ça m'a pas fait vraiment plaisir à l'époque.
J'imagine.
À côté de ça, c'est un gamin et moi il a toute mon amitié, mais c'est vrai que ce jour-là, j'étais pas content.
Ouais, bien sûr.
On va dire comme ça.
Ah, c'est faut que je te parle. C'est vrai que faut que je te parle. Attends, j'ai 3-4 mots les pires que tu peux entendre.
Ah, oui.
Ça te met un stress tout de suite, quoi.
Ah, tu sais que c'est fini.
Ouais, il y a un truc, quoi. C'est ça. Ouais,
c'est
vrai que j'aime pas quand on me dit ça aussi. C'est jamais bon, quoi. C'est rarement bon.
Souvent ?
Non, mais tu sais, ça arrive. T'es au bureau aujourd'hui, on pourra se parler et tout. Et après. J'ai le truc, tu vois, je me dis qu'est-ce que c'est.
Le pire, c'est quand ils te disent, mais ça peut attendre demain.
Ah ouais, non, mais ça peut.
Parce que toi, t'as envie de savoir.
On se parle maintenant, on se parle tout de suite.
Ça l'a trop dit, là.
Ah ouais, j'aime pas du tout. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il faut faire. T'es comment, toi, sur la gestion de l'humain, du personnel ? C'est quelque chose qui t'est venu. T'étais déjà, avant, quand tu bossais, t'avais des gens qui bossaient avec toi, pour toi, ou c'est quelque chose que t'as commencé avec le resto, à embaucher, à...
Je pense que je suis devenu bienveillant avec la restauration.
Ok.
Avant, je l'étais moins.
Ok. Mais t'aimes bien le faire ou pas? Il y a des gens qui n'aiment pas le faire.
Mon premier job que j'ai eu un peu compliqué, je l'ai fait court.
Vas-y.
C'est un de mes patrons qui était une très grande famille libanaise, qui un jour me convoque dans son bureau et qui me dit, écoutez Bertrand, je vous ai mis vice-président de telle boîte, j'avais 28 ans. Je lui fais oui. Bah, il me dit, écoutez, c'est pas compliqué. Hein. Ils sont 250, vous allez voir qu'il n'y en aura plus que 50.
Oh.
C'était mon premier job.
Oh la vache.
Tu vois, un peu compliqué. Donc,
ah ouais.
Le truc horrible, enfin bon.
Oui, c'est pas là du tout la même...
C'est pas pareil.
Ouais. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Le...
Il avait pas forcément tort, hein. Mais c'était compliqué.
Oui, je comprends.
Bon, alors, moi qui t'ai vu pendant une longue année, du coup, au quotidien, comment tu expliques que les gens restent longtemps chez toi? Parce que là, en salle, au Bistrot Paulbert, t'as quand même des gens qui ont quoi? Plus de 10 ans de maison, 15 ans?
Ah, c'est beau, hein, franchement. Hein.
Alors, je vais dire, je pense que...
Vas-y, dis-nous.
Je pense que je suis assez juste. C'est-à-dire que je suis capable de gueuler s'il faut, ça. Et que s'ils sont dans la merde, on est toujours là. C'est-à-dire que c'est encore plus vrai avec les gens qui sont en cuisine et qui ont des petits salaires, etc. Dès qu'on peut faire un effort, dès qu'ils ont besoin d'un prêt de 2-3 000 balles pendant un an, on l'a toujours fait. C'est un peu du paternalisme aussi. Mais moi, je pense que ces gens, tous ces gens, ils ont aussi besoin, tu vois, je veux dire...
On le fait aussi, hein. Moi, on le faisait.
Il n'y a pas de solution. Eux, s'ils vont à la banque pour mettre 2000 balles de découvert, ils ne les auront pas.
Ouais.
Donc, tu vois, je veux dire, tu ne vas pas laisser les gens paniquer parce qu'ils ont un truc à payer.
Ah, bien sûr.
On l'a toujours fait.
Et ça crée une sorte de loyauté, une sorte de famille...
Moi, j'ai jamais eu... Alors, c'est plus compliqué avec les gens en salle.
Ouais.
Mais en cuisine, vraiment, on a toujours été remercié de ça. Toujours. Et en salle, je pense que d'abord, on a quand même sur les tarifs où on embauche les gens, on essaye vraiment d'être juste, c'est-à-dire pas tirer les trucs vers le bas, quoi, tu vois.
Ouais.
En plus, ils ont des gros pourboires en salle.
Ouais.
Tout ça fait que ça va bien, quoi.
T'as raison.
Toi, on a un garçon que je ne nommerai pas, là, mais qui est au Paulbert, qui voulait se barrer il y a 4 mois. J'ai dit, écoutez, attendez, vous allez voir. Les pourboires, ça va venir avec les terrasses l'été, etc. Et là, il n'a plus du tout envie de partir.
Ouais. C'est un peu la bougeotte, les gens, maintenant, hein.
Ouais. Ils ont cette facilité de se dire qu'en 24 heures, ils sont ailleurs.
Ouais, c'est ça. Offre et demande.
Sauf que nous, si tu veux, notre philosophie, on n'a jamais payé les gens avec un jour de retard. On a toujours fait que ça soit le plus carré possible.
Carré possible, ouais. Les gens cherchent ça maintenant aussi. Hein. Franchement, c'est un gros plus. Hein. Les maisons carrées, c'est...
Le nombre de gens que j'ai vus venir en disant « Ah, vous nous payez quand ?» Parce que là où j'étais, on était payé le 16. Chez moi, c'est jamais arrivé. Quoi. Les virements, ils ont fait le 4. Ouais. Au pire, le 5, s'il y a un jour de décalage de...
Oui, un week-end, un jour férié.
Ça n'a jamais dépassé ça.
Ouais. En fait, ça ne tient pas grand-chose. Hein. C'est être juste, comme tu disais.
Bah, c'est un problème d'honnêteté avec les gens.
Et carré,
les gens,
quoi.
Ils ont des crédits à payer.
Ah, bien sûr. Au plus gros du Paulbert dans son ensemble, tu as eu combien d'employés?
Avec les 3 restos, on était plus de 50.
Ok. C'est quelque chose qui t'a apprécié ou c'était trop...
Non, ça roulait.
Ça roulait, ouais. Tu avais des lieutenants un petit peu tu structures comment
C'est un peu compliqué.
Ouais.
On a toujours eu un responsable par restaurant, c'est vrai. Mais au Paulbert, ça a toujours été moi, finalement.
Ouais. Ça m'intéresse parce
que... D'autant que j'ai une relation avec le chef qui fait que... je sais qu'il le prendra pas mal, c'est que Thierry, c'est un mec incroyable au niveau du travail et de la qualité de ce qu'il fait. Mais il n'est pas du tout gestionnaire de ses menus.
Oui.
C'est-à-dire que c'est moi qui gère ça, et c'est moi qui donne le là.
Ouais.
Que les plats que j'ai envie qu'il fasse, il va me les faire comme je veux. En fait, je pourrais dire qu'on est presque en équivalence. C'est-à-dire qu'il fait un boulot d'un second et moi je fais le boulot du chef.
Ouais.
En lui disant non, ça je le veux comme ça et ça je le veux pas comme ça et tout. Et il l'admet parfaitement.
C'est vachement bien.
Ça c'est super bien. Quoi.
Ouais, ça c'est une chance.
Comment est né le steak au poivre, le fameux
steak au poivre, il est né d'une manière. Steak au poivre, il est né d'une manière incroyable.
C'est tellement bon.
Il y a combien de temps ça fait longtemps qu'on le fait. Ça fait au moins 10 ans qu'on le fait. Et au début, on ne le faisait pas avec ce rythme-là. Et un jour, je cherchais à refaire un plat de viande un peu différent, etc. Et dans une autre époque de ma vie, j'étais beaucoup rue de Bretagne et j'allais chez Omar. Et chez Omar, qui est un restaurant de couscous, qui est tenu par un garçon que je connais depuis toujours, il avait plein de plats marocains, algériens, je ne sais pas quoi, des couscous, des tagines, etc. Il avait deux plats. Il avait la sole aux épinards. Et le pavé de bœuf au poivre.
Okay.
Quand j'y allais, j'avais ras-le-bol de manger du couscous, on y allait deux fois par semaine, et je prenais toujours ce putain de pavé au poivre, qui n'était pas génialement bon, Mais je me suis toujours dit, ce truc-là, c'est un truc qu'on doit pouvoir améliorer. Parce que c'est un truc un peu régressif, avec cette sauce à la crème, etc. Donc, il ne le faisait pas avec les mêmes produits que nous, en fait. Et quand je l'ai mis à la carte, tout de suite, ça, très vite, ça a pris. Et donc, c'est, il est né comme ça.
Je ne savais pas que c'était associé le Paul Bert à ce plat-là.
Ah si, c'est incroyable.
Je ne savais pas. Mais attendez, parce que Nicolas comme moi, je pense qu'on va beaucoup resto, on a beaucoup de références en steak au poivre. Le tien, le vôtre, il est différent.
C'est vrai qu'il est...
Il n'a pas le...
Il est mangé il n'y a encore pas longtemps.
Hein. Du steak au poivre de brasserie qu'on connaît. Qu'est-ce qui fait sa différence?
Ce qui fait sa différence, c'est les produits.
J'allais dire la qualité de la viande. Elle était folle.
D'abord, la qualité de la viande et les produits.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il est fait avec un poivre particulier qu'on importe pour nous,
okay.
qu'on a mis chez Gift Shop dans les poivriers Paul Bert, qui est du poivre noir de Sarawak. Il est fait avec un Armagnac spécial qui vient chez un vigneron, etc. Chaque produit est vraiment sourcé. Quoi,
ouais. Hein. Mais toi, Bertrand, toi, t'aimes bien les trucs simples. Enfin, comment je dis ? Je suis sur Instagram. C'est toi qui fais l'Instagram ou pas ? C'est toi, ça se sent, j'aime bien. La dernière fois, t'avais mis 3 œufs au plat avec du beurre.
Ben oui.
Et j'étais là, ça me parle. Tu vois, c'est vraiment ce truc, genre 3 beaux œufs, une belle quantité de beurre.
C'est ce que je mets sur Instagram. Moi, j'aime le bruit de l'œil du beurre qui fait ça m'émeut, quoi.
Ouais, tu vois, ouais. Moi, je suis là. C'est ça,
en seul chez moi, je le fais.
Ouais, ouais, bien sûr.
Je le fais, tu vois. Ouais. Bien sûr.
Ouais, quand j'ai vu ça, j'étais là, on se comprend. Tu vois, c'est vraiment ce truc de, moi je le fais aussi à la maison, c'est un bon produit, bien cuit, gourmand.
Pas compliqué, une baguette croustillante.
Ouais. Pour moi, vous avez mis le curseur pile à la bonne taille, parce que moi j'aime plus trop aller dans les trucs trop fancy, on va dire. Un peu de mal avec ça en ce moment, ça reviendra peut-être. Mais ça fait quand même quelques années maintenant. J'aime bien aussi manger simple, un bon sandwich, un truc. Non, j'aime beaucoup. Je me situe entre. Alors, c'est pas pour faire un truc, c'est pas bien de faire verticalement, on va dire que. Mais imaginons qu'il y ait des strates un peu. J'aime bien manger. Encore, je trouve que le terme street food, il a été trop utilisé. Mais tu vois, j'aime bien manger simple, vraiment, genre un petit casse-croûte. Et le plus haut que je peux monter maintenant, c'est le Paul Bert. Au-delà, ça m'intéresse plus. Mais le Paul Bert, pour moi, c'est. Le curseur, il est nickel.
Et moi, je peux dire que. Enfin, tous les week-ends, ou en tout cas tous les lundis. Alors, le fait est que mes derniers enfants qui commencent à être grands, ils ont 17 et 21, ma fille qui a 21, elle commence à vraiment aimer la bouffe, c'est différent. Mais le dernier qui a 17, ça l'emmerde.
Ah ouais ?
Sur le street food, le McDo, le machin, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais si moi je vais au resto avec ma femme ou avec des potes, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête.
Ouais.
Moi, je vais souvent, j'ai un endroit que j'adore qui est le Square Trousseau, parce que c'est coste, ok. Et c'est coste bien fait.
Ouais.
Je sais que le tartare du Square Trousseau, il n'est pas comme celui que je fais, il est différent. Mais je l'aime bien.
Ouais.
Le cœur de salade avec la vinaigrette, il est top.
Ouais, tu cherches un truc.
Je ne cherche pas à me prendre la tête.
Dans celui-là aussi.
Voilà, j'ai Pauline Séné au 6 Paul Bert.
Ah oui, j'ai vu ça.
Formidable. Mais je ne pourrais pas manger ça tous les jours.
Oui.
Alors que je peux aller au Square tous les jours ou au Paul Bert tous les jours.
Ouais.
C'est pas la même chose.
Ouais, moi j'aime bien ces adresses où tu peux venir et revenir et tout, c'est cool.
Je regarde la carte du Paul Bert à midi, je me dis putain, on est gonflé, c'est quand même pas vraiment intéressant. Quoi. Tu vois, quand je vois œuf dur mayonnaise, aile de raie au capre et carpaccio de bœuf, je fais.
Bah alors.
Et finalement, ça dont j'ai envie.
Bah ouais.
C'est ça dont j'ai envie.
Bah, c'est la lisibilité et puis c'est le nombre d'éléments aussi, tu vois.
Oui, aussi.
Il y a rarement plus de 3 éléments dans tes assiettes.
Oui, je comprends. Oui. Pour moi, c'est très important, ça. Ouais.
De ne pas surcharger l'assiette. Ouais. Et tout ce qui est dans l'assiette a une utilité.
C'est-à-dire que la complication, je trouve qu'elle devient intellectuelle et elle n'est plus dans la gourmandise.
Ouais.
C'est ce que je reprochais il y a des années à des grands chefs qu'on ne va pas nommer, qui faisaient des trucs où il y avait 3 lignes à lire. Évidemment, quand tu avais le plat, tu sais.
Ouais, fait chier, quoi.
Ok, comme ça me casse les
oreilles. C'est vrai qu'avec Sarah, donc ma compagne qui cuisine chez nous à Libelli, c'est le truc de trop transformer le produit aussi. À un moment, genre, c'est passé par 4, 5, 6 étapes et ça se sent presque. Ça a été réduit, après ça a été mixé, après ça a été compressé, après ça a été injecté et tout. Et t'es là genre, moins d'étapes quoi. Genre, ouais, enfin tu vois, ce truc de...
J'ai l'impression que l'âme du produit s'est évaporée.
Ah bien sûr, il est passé entre plein de mains.
Il y a une espèce de modernité technologique qui me prend la tête.
Ouais.
Pour moi, le pire truc, c'est le gastrovac, là.
Ouais.
C'est un truc de fou, quoi. Le mec, il t'explique qu'on envoie le chocolat dans la poire et après avoir enlevé le jus de la poire. J'ai mangé de la poire et du chocolat, mais me faites pas un truc qui ressemble à rien, quoi. C'est comme si tu faisais un bouton à 6 pattes, quoi, tu vois, pour avoir 4 gigots.
Bon, après, t'aimes bien quand même te faire des grandes tables, quand même, des tables de chef, des tables gastronomiques.
J'aime bien. C'est des moments. Mais je ne pourrais pas faire ça tous les jours.
Une fois par an, quoi.
Pour moi, ça correspond à un moment, à une envie. Tu vois, de temps en temps, de se faire plaisir parce que tu as envie d'avoir un truc pas plus intellectualisé, mais plus d'auteur.
Aujourd'hui, la grande table que je préfère, parce que je m'y retrouve parfaitement, alors qu'elle est extrêmement sophistiquée, mais elle est très nature, c'est chez Table. Chez Table, Bruno Verju.
Pas fait en vrai, ok.
Qui est capable de me faire un menu où il y a 15 trucs, enfin, il y a 15 plats différents. Et chaque plat, il est sourcé, parfaitement juste, cuisson, température, machin. Mmh. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. J'ai fait d'autres grandes tables où c'est trop compliqué.
Ouais.
Moi, s'il faut que je réfléchisse à ce que je mange, c'est nous, restaurateurs, et toi, tu le sais aussi bien que moi, il y a deux trucs qui nous font chier. C'est réfléchir à ce qu'on mange et connaître le prix de l'assiette avant qu'elle soit sur la table. Il se fait clair, il se fout de ma gueule.
C'est clair.
Tu vois, je veux dire.
Et puis, si on repense à ce que tu disais au tout début du truc, en termes d'ambiance et de lieu et d'endroit, moi, tu vois, ce truc de se sentir bien dans un lieu, etc., je me suis rarement senti bien dans ces endroits-là. Tu vois, genre, je pense à. Je sais pas comment je me tiens. J'ai merdé là pour l'anniversaire de Sarah. On est allé. Moi, j'adore Rollinger, ce qu'il fait. Je trouve qu'ils sont très. Tu vois, je trouve qu'ils sont. Ils arrivent à aller vers l'excellence, mais en te faisant te sentir bien. Très difficile à faire, tu vois. Mais bon, on est allé au Coquillage, qui a été repris par son fiston, je crois. Et j'avais pas capté que c'était étoilé. Et juste en regardant les horaires sur Google, je vois 2 étoiles. Et ben ma réaction, c'était pas là, genre. Yes, 2 étoiles. Ah, je me suis trompé, c'est cool, on va se faire un étoile. Je dis, ah merde. Mais oui, ouais. Et parce qu'on est 4h30 à table, 5h. Et il n'y avait pas un bruit dans la pièce. Et après, moi, je veux pas être. Enfin, il en faut pour tout le monde. Et c'était bon. Et Sarah, elle a kiffé, c'est l'essentiel. Elle trouve ça trop bon et difficile. Et elle trouve ça vraiment très bon. Donc, pari tenu. Mais en parlant d'expérience, tu vois. Et je trouve que, je sais pas, c'est trop compliqué, en fait. On vient trop me voir. On me raconte trop de choses. Yeah, tu vois,
c'est un truc que j'adore chez Table. D'abord, c'est un étoilé. Il a 2 étoiles aujourd'hui, et je pense qu'un jour il en aura 3. Je dirais que c'est un étoilé sans étoiles. Mmh. C'est-à-dire que c'est resté un bistrot avec une déco incroyable. Il n'y a aucune pression du personnel. Bruno, il est derrière toi, il bavarde, il fait 3 gestes au mec, et le truc, il arrive sur la table, nickel.
Ouais.
Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fumée. Enfin, c'est un truc. Juste incroyable,
ça glisse, ça flotte.
T'as déjà fait, toi ?
J'ai déjà fait, ouais.
Et t'as aimé ou t'as pas aimé ?
Non, j'ai beaucoup aimé. Ah, voilà. Je suis honnête, ouais.
Bah, j'adore.
Ouais, bah je vais le faire, moi je l'ai pas fait encore. Mais ouais, non, je trouve que c'est trop important comment tu te sens dans un lieu. Et d'ailleurs, mais après, bon, c'est compliqué de trop donner de compliments et tout, mais c'est ça que j'aime au Paul Bert, c'est pour ça que j'y retourne. C'est avant tout, non, c'est pas avant tout, c'est au même niveau que la cuisine. Ça, c'est fort. Quand tu vas à un endroit, parce que c'est aussi bien pour l'expérience en salle qu'en cuisine, tu vois, quand les curseurs sont bien ajustés. Et moi, je choisirais toujours un resto où l'ambiance est. Ah, tu manges un peu moins bien, mais qu'est-ce qu'on y est bien ? Plutôt que. Ah, qu'est-ce qu'on mange bien, mais bon, l'ambiance, pas ouf. Tu vois, enfin, pour moi, après, c'est perso, on a tous ces curseurs, tu vois.
Moi, je suis d'accord.
Mais moi, c'est ça que je recherche. Et je trouve que chez toi, chez vous, du coup, c'est j'étais encore il y a, je sais pas, un mois avec. Arthur's, les Montréalais, là, je sais pas si tu les connais, bref, un couple de Montréal qui a un truc qui s'appelle Arthur's, ils voulaient aller absolument au Paul Bert. Et pour la petite histoire, je crois que j'ai le droit de le dire, mais ils ont décalé leur billet d'avion, ils ont fait une rallonge de $600 pour décaler leurs avions pour qu'on puisse aller dîner. Je dis, ah, je crois qu'on peut peut-être essayer d'avoir une table, voilà. On a réussi à avoir la table, merci Julien, et merci Bertrand. Et du coup, ils ont dit, bah, ok, on décale les billets, machin et tout.
C'est cher la
bougère. Ouais, mais bon, ils étaient contents. Mais tu vois, quand même, je trouve cette histoire, elle est forte quand même, parce qu'ils avaient trop. Et c'est pas des Instagrammeurs, ils voulaient pas y aller parce qu'on leur avait. Il fallait absolument y aller et tout, tu vois, ils avaient envie d'y aller, quoi.
On a une grosse image positive à Montréal.
Ouais.
Moi, je suis très pote avec les gens de chez Joe Beef.
Bon, ouais, bah, c'est peut-être ça alors.
Ça, ils étaient. Ça fait une vraie. Il y a un vrai lien entre nous.
Ils étaient tristes de partir, mais ils n'avaient pas réussi à le caler dans le voyage, tu vois. Ils étaient venus pour un truc. Hein, et je dis, ah, il y a peut-être moyen et tout, machin. Bon, par contre, c'était le soir. Et ils ne m'ont même pas dit, ah, par contre, il y a l'avion et tout. Ils l'ont fait. Et là, ils m'ont lâché au dîner en mode, bon, on a décalé les billets et tout. Mais c'était tellement content. Mais ça, c'est fort, je trouve. Quand tu arrives à créer ce sentiment chez les gens, tu vois.
Mais moi, c'est un peu ce que je te disais au début, quand j'étais dans des pays un peu compliqués, ce que je cherchais dans un restaurant.
Ouais.
C'était cet équilibre entre comment on est reçu, est-ce que tu reconnais et est-ce que tu vas manger. Il y a des jours où ce que tu vas manger n'est pas très grave. Hein.
Ouais, c'est ça.
Il y a aussi des jours où tu manges pour te nourrir.
Ouais, c'est ça.
Il y a un moment où c'est pas toujours un moment de fête ou extraordinaire. Mais il faut que l'équilibre soit respecté.
Ouais, je suis d'accord.
Tu sais que moi, ma première expérience au bistrot Paul Bert, je crois ma première ou.
Ah, vas-y, raconte, ça m'intéresse.
Bon. Alors moi, j'ai failli avoir une mauvaise expérience.
Oh.
Il s'agissait pas de la cuisine, parce que je pense qu'elle a toujours été la même depuis si longtemps que ça, tu pourras jamais faire d'erreur là-dessus. Mais c'était en salle. C'est une personne que j'adore énormément aujourd'hui et avec qui j'ai eu un rapport un peu conflictuel pendant le service. Mais ça arrive hein, souvent dans les restos où il y a beaucoup de volume. Et c'est avec Nathalie.
Elle peut être compliquée. Hein.
Ouais, et je l'adore tellement aujourd'hui. Et tu sais, on a passé ce truc-là, mais au sein même du repas, de cette soirée-là, je me souviens que ça a été un peu compliqué. À un moment donné, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Elle a fait un pas vers moi, j'ai fait un pas vers elle. Oui, oui, oui. Et à la fin, c'était fantastique. Tu vois, et quelque part, c'est ce qui fait que j'ai un lien aussi fort avec elle et avec le lieu. C'est qu'on est passé par... On s'est un peu reniflé le cul, tu vois. Et c'est pas le service à l'américaine, tu vois. C'est un service qui nous, se mérite un peu.
Non, mais nous, moi, je sais qu'au Bistrot Paul Aubert, si tu regardes les commentaires qu'on a sur ces putains de réseaux sociaux, il y a des gens qui détestent. Hein. Détestent. Parce qu'on a un service qui est pas à la hauteur... Enfin, que les gens pensent ne pas être à la hauteur du lieu. Mmh. Ouais, ils attendraient un truc plus conventionnel, machin. Les serveurs, tu vois, une fois qu'ils ont fait 120 couverts le soir, le 122e, le mec leur parle pas gentiment. Il dit, écoutez, vous êtes pas content.
Ouais,
c'est
ouais.
La même chose. Quoi.
Bon, je trouve ça.
Alors après, moi, ça m'énerve aussi quand ça arrive. Et, tu vois, je leur remonte les bretelles. Oui. Je peux aussi comprendre.
C'est
quoi,
humain. Voilà, c'est humain. Ouais. Mais moi, j'aime bien les restos comme ça qui sont très. Tu veux pas être tiède, quoi. Tu veux pas être... Bon, les étoiles, on est tous d'accord pour dire que ça fait chier, 1, 2, 3, 4, 5. Mais à la rigueur, je vais adorer un resto qui a énormément de 1 étoile et en de 5 étoiles. Ouais, tu vois, c'est un resto clivant, c'est un resto qui a une colonne vertébrale, tu vois, qui est genre... Eh ben, c'est comme ça et c'est pas autrement et tout, machin. Un resto à 3 étoiles, c'est nul. Ça essaye de plaire un peu à tout le monde, ça fait des galipettes, etc. Moi, ça me dérange. Enfin, je trouve que...
Oui, mais il y en a aussi qui ont joué le jeu du bistrot. Tu vas chez Passard, 3 étoiles... C'est un bistrot.
Toi, tu parlais des étoiles sur les avis.
Ah, pardon, autant pour moi sur les avis, tu vois ce que je veux dire ?
Non, mais ça, les avis.
Ouais, non, mais ça c'est nul, je suis d'accord, mais qu'il y ait des accidents comme ça, je trouve que ça fait aussi la vie d'un resto, tu vois, ou des trucs un peu naturels.
Tu peux pas être carré tous les matins.
Ah non.
Tu vois, il peut nous manquer du monde en cuisine, le chef peut être de mauvaise humeur, sa femme peut l'avoir trompé, enfin, t'en sais rien, quoi, tu veux dire.
C'est votre ville, un peu.
Non, mais tu vois, je veux dire, ils sont là tout le temps, du matin au soir.
Ah oui, oui.
Le mec a demandé médium, pour lui c'est assez cuit, pas assez cuit. C'est compliqué.
Ça fait partie du truc,
c'est
quoi.
C'est compliqué. Ouais.
Ouais, moi, j'aime pas quand ça arrive, mais je trouve que c'est bien aussi de. Je trouve que les gens maintenant. J'ai senti, ça fait 10 ans, nous on a 10 ans, donc c'est moins que vous. Mais il y a eu quand même un changement dans le rapport des gens au restaurant, je trouve. Il y a beaucoup d'exigences maintenant, mais beaucoup d'exigences un peu mal placées aussi. Être exigeant, c'est cool, c'est bien et c'est normal d'avoir une exigence. Mais maintenant, c'est un peu genre. Ils demandent des trucs, et si tu as le malheur de dire non, ça revient sous forme d'étoile. Et ça, je trouve ça pas cool. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une sorte de...
Moi, je trouve que s'il fallait chercher une espèce de comparaison, je pense que la définition d'un menu, ce qui se passe dans un restaurant, c'est comme une écriture. Mm-hmm. Une écriture, elle peut pas être parfaite. Sinon, elle est tapée à la machine. Si c'est tapé à la machine, c'est plus la même chose.
Bien sûr.
C'est écrit à la main. C'est un truc, tu vois, c'est comme nos ardoises. Nos ardoises, mm-hmm. Il y a une faute d'orthographe, ça m'énerve.
Et puis,
c'est écrit à la main. Tu vois.
Ouais.
Comme on a beaucoup de monde en ce moment et qu'il faut des menus tapés à la machine en plus, ça m'agace parce que je trouve que l'idée, c'est l'écriture à la main. Et l'écriture à la main, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, la cuisine, c'est un travail de la main.
Ouais,
c'est pas un truc automatisé. Je te mets le four à 30 degrés, patin couvert. C'est pas ça le truc.
Ouais,
c'est
rajouter
le sel, faire attention à la crème. Et c'est ce que dit toujours mon pote Campbell. Hein. On travaille avec nos mains.
Ouais.
C'est ça la cuisine. C'est des mains. Et la salle, c'est la même chose. On porte les assiettes plus ou moins bien, machin, tu vois. Mais c'est la main.
Ouais.
Au moins.
Non, mais je suis d'accord, j'ai réfléchi à ce que tu dis. Mais... Ouais.
C'est des erreurs qui font aussi le charme, tu vois.
Et les gens,
sinon,
quoi.
Sinon, t'as un truc lissé. Sinon, tu es McDo.
C'est ce que permet le bistrot aussi.
McDo, jamais d'erreur. Hein.
Oui.
Bah oui, jamais d'erreur.
Ouais, non, ouais.
C'est lissé, quoi. Si, quand ils oublient la sauce, ça, c'est quand même une erreur impardonnable.
Ah, je pourrais pas te dire.
T'arrives chez toi déjà, là, t'es. Bon.
Je pourrais pas te dire.
Ça, c'est vrai, c'est pas cool.
Ça, c'est pas cool. Ça, une étoile.
Ah non, je touche plus à ça. Des fois, j'ai des espèces de regains de. Je m'en fais un, mais non, je touche plus. T'es toujours déçu pour le coup.
McDo ?
Ah ouais.
Moi, je vais pas mentir, je suis pas déçu.
Oh non, c'est décevant.
Moi, pareil, moi, j'y vais. Hein.
Ah, puis t'as faim après ? Vous avez pas faim après ?
Oui, ça disparaît immédiatement de l'estomac, mais. Ça correspond à une case de mon cerveau. Oui.
Moi, en voiture, les boîtes de nuggets.
À la rigueur en voiture. À la rigueur en voiture.
Je peux pas m'empêcher, j'ouvre le truc, tu vois. Je suis là, deep.
Petite sauce curry, là. Ouais, barbecue.
Ouais.
J'étais tout seul avec le curry, il n'y a eu aucune résonance. non, il faut garder de la place.
Mais tu vois, avec mon copain Picard, qui était mon maître à penser, t'entends, parce que lui, c'était un fou du produit, du machin et tout, t'entends, on se cachait l'après-midi, on allait bouffer un McDo.
Tu vois?
Mais c'est bien d'avoir cette ambivalence.
Lui, en plus, il était diabétique, donc il n'avait pas le droit.
Ah ouais,
personne, on va manger un petit McDo.
C'est quand même le secret de tous les plus grands chefs du monde que je connais.
Et
c'est quand même un secret qui n'est plus vraiment un secret.
C'est pas de polichinelle. Hein,
voilà. Tous.
Et oui, bien sûr.
On a tous nos petits kiffs, quoi.
Ouais, presque.
Tous. Moi, j'ai un de mes enfants qui est chef et qui habite le Japon. Il a bossé pendant 2 ans, 1 an et demi chez Gagnère, et ça s'est pas très bien fini, mais bon, c'est un problème de gamin. Et un jour, je l'engueule, et je lui fais, putain, t'exagères quand même. Ah, il me dit, tu comprends, ton pote Gagnère, il me cassait les oreilles et tout. Je dis, il me dit, tu comprends, il nous obligeait à couper la ciboulette en quart de millimètre, machin et tout, et quand il avait faim, il me demandait de lui faire une soupe paysanne.
C'est ce contraste. Ouais.
Quand je l'avais dit à Pierre, il avait rigolé.
C'est bien de garder un peu ce truc-là aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Rester un peu... tranquille.
Mais l'autre jour on a fait pour 3 potes qui traînaient là, qui étaient arrivés tard. Le chef était parti, ils avaient faim et il me restait juste un gars en cuisine et tout. Il y en avait un bouillon de bœuf.
Ok.
Je dis, on va faire du bouillon de bœuf, on va mettre du pain grillé dedans. On a fait bouillon de bœuf, on a mis de la moelle qu'on a décortiqué, du pain grillé et un coup de rouge, ça fait chabreau.
Bien sûr.
Mais ils étaient scotchés, ils n'avaient jamais goûté ça, quoi.
Mmh. Ouais. Une fois de plus, il y a le moment, quoi. Après le service, un peu tard.
Évidemment.
Oui. Ah ouais. Vous servez jusqu'à quelle heure?
Plus très tard, maintenant, parce que avec les conventions, le nombre d'heures travaillées.
Oui.
On servait jusqu'à 10h30.
Okay.
Avant, on servait jusqu'à 11h30.
Waouh. T'as connu l'époque où les gens fumaient au resto, Paul Bert, ou c'était après? Ouais, je me rappelle plus quand ça a coupé.
Évidemment, ça a dû couper en 2004, 2005, en tout cas.
Ok.
Ouais, bien sûr, hein.
C'est fou, hein.
Alors, moi, j'ai connu. Je mets le cigare dans les avions. Hein.
Waouh. C'est fou, hein.
Ouais.
C'est marrant.
Et au cinéma.
Oh. Ah, donc, t'étais au petite clope au Paul Bert, petit cendrier et tout. C'est ouf. Ça me met un autre monde. T'as quoi comme autre gros changement, tu trouves, entre le début et maintenant? Qu'est-ce qui a vraiment changé? T'arrives à essayer d'avoir...
Il y a des choses qui ont beaucoup changé et que moi, j'ai interdit que ça change.
Intéressant.
Par exemple, les réservations sur Internet, je ne veux pas en entendre parler.
Ouais, c'est bien, je pense.
Je ne prends que par téléphone.
Ouais.
Je veux entendre la voix des gens qui me parlent, savoir ce qu'ils veulent.
C'est bien.
Et je vois qu'au 6, on avait fait, pour faire plaisir à Julien d'ailleurs, on avait fait un essai avec ZenChef et en fait, c'est plus compliqué encore.
Ouais.
Si tu n'as pas quelqu'un qui connaît ton ordinateur.
Tu avais lobby un petit peu.
Non.
Non, mais tu.
Et on a arrêté net avec Pauline, on a remis le.
Ah ouais, là c'est.
Elle s'est fait coincer parce qu'elle en prend beaucoup sur Instagram.
Mmh. C'est dangereux ça.
Tu te rends compte le boulot quand même aussi, tu vois.
C'est le bazar.
Tu dois avoir tous les jours à gérer ça.
Ouais.
Et ZenChef aussi.
Ouais, mais la raison de tout ça, c'était aussi une chose, et ça, Nico, il va me rejoindre à 100%. Mais c'est les no-shows, quoi.
Ah ouais.
On les a de toute façon.
Ouais.
Ouais, mais vous avez intégré, tu vois, ces pourcentages de no-shows dans votre gros. Parce que tu connais le cahier. Le fameux cahier qui est sur le comptoir.
Non, je
ne
le connais pas.
L'énorme cahier avec les réservations écrites à la main et prises au téléphone. D'ailleurs, ça rend les fous les gens, mais je crois que ça les rend addicts. Hein.
De ce côté téléphone, là
parce que tu veux toujours ce que tu ne peux pas avoir.
Ouais, bien sûr, c'est ce côté.
Tu n'arrives jamais à les avoir. Et le jour où ça décroche, mais je crois que tu serais prêt à accepter tous les horaires du monde. Tu changes ton vol. Parce que c'est au final, j'ai vu comment ça fonctionnait. C'est quand ils peuvent.
Bien sûr. Ouais.
Parce que le truc, il n'arrête pas, quoi.
Ouais.
Ils sont en train de faire plein de choses en mise en place.
C'est compliqué.
Ouais.
Ouais.
Je me fais défoncer sur les réseaux sociaux avec ça.
C'est vrai. Ouais. Parce que je te dis, c'est les attentes des gens maintenant.
On a une chance, c'est un peu ce que voulait dire Julien. C'est que même si j'ai 20 personnes en no show, je vais les prendre avec des gens qui vont faire la queue avant le service.
De passage.
Et le passage.
Ouais. Donc, j'allais te demander, ça vaut toujours le coup de passer une tête? Peut-être.
Oui.
Ça peut peut-être le faire.
D'abord, parce qu'on trouve toujours de la place. À moins que tu arrives à 8.
Non, okay. Mais bien, je te parle en couple, à 2.
À 2 ou à 4, à 9h15, on va dire, bois un verre et t'arrêtes à 9h30.
C'est bien de garder cette flexibilité, je trouve.
Ah oui.
Moi, je ne prends pas les raisins, je ne les prendrai jamais.
C'est essentiel pour moi.
Ouais.
C'est
fluide. Ça reste fluide.
Alors, pas prendre des raisins chez nous, c'était compliqué.
Non, chez vous, vous ne pouvez pas. Non.
Parce que tu vois, même cet été avec la terrasse, on avait 50 mètres de queue de gens qui attendaient, parce qu'on prenait pas les raisins en terrasse, puisqu'il fallait que ça soit fini à 22h. On s'était dit, tous ces gens-là, on leur dit de venir avant le service, ouais. Et on les colle sur la terrasse s'il fait beau à 7h30.
Yes.
7h30, 10h, ça le fait.
Ouais, ça le fait.
Ça le fait. Donc, tout l'été, on a travaillé comme ça.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ce truc-là, j'oublie.
Parce que 10h, pour nous, c'est un truc de fou.
Bah ouais, c'est hyper tôt.
Bah, c'est trop tôt.
Ouais.
Toi, si je prends des gens à 9h, c'est pas possible.
Bah oui, 10h. Faut manger en courant, quoi.
Donc ça ne marchait que pour déjeuner sans problème et à dîner que pour les étrangers.
Ah ouais, qui bouffent tôt.
Ouais.
Ah, ça reste compliqué, ça. Hein. Ces histoires de réza, no show, machin, truc.
Bah nous, alors, ouais. Tu vois, au 6 Paul Bert, du coup, avec le projet qu'on a fait ensemble, le Bistrot Tontine, nous, on n'avait pas la chance d'avoir le passage du Bistrot Paul Bert, tu vois. Donc nous, le no-show de 4,
il fait mal.
Moi, avec mon réseau, ça va, je pouvais.
T'arrives à boucher les trous.
Et... Mais c'était un travail, du coup, qui prenait trop d'énergie.
Bien sûr.
Parce qu'on l'a fait pendant 2 semaines avec, avec le cahier. Et c'est quand on a décidé de le refaire pendant près d'un an qu'on s'est mis à choisir ce système de Zen Chef. Mais sinon, on a essayé. Et oui. Moi, le no-show, ça m'irrite le poil et je suis de mauvaise humeur après.
Bah,
je trouve
ouf.
Ça tellement injuste et je comprends pas.
T'as le no-show et ils ont pas trouvé de nom encore pour le. On allait manger là le ce week-end un truc et nous on arrive, nanana, il y a du monde et tout et c'est une crêperie. Et les pauvres d'ailleurs, tu sais, on parlait de la force des médias et ils sont passés dans c'est meilleur quand c'est bon, un truc comme
ah,
ça là.
Ah, oui.
Voilà. Et ils étaient dans le jus, tu vois. Et la serveuse a dit, moi je suis même pas serveuse, je suis la copine de truc parce que depuis l'émission et tout machin. Donc bref, pour parler un peu de tout ça. Et donc on se pose dernière table de 4 trop content et à côté il y avait une fille qui avait une table de 4 et franchement c'est dimanche, c'est le coup de feu, c'est le mauvais moment tu vois, et la serveuse était là, je peux prendre, enfin ouais, je peux, elles vont arriver, je te jure, on avait fini de manger, elle attendait encore ses 3 copines, et tu vois ça, t'es pas vraiment sur un no show, mais enfin tu vois, et ça je trouve ça c'est le truc qui me rend ouf.
Ouais, ça c'est
ça me rend gueudin,
je sais pas comment appeler ça, après c'est fou. Il y a de l'éducation à avoir en tant que client.
Ouais, aussi. Ouais. Pas pour faire le rageux, tu vois, mais non, c'est vrai mais que c'était. Je pense que les gens se rendent pas compte que c'est problématique, en fait. Ce jour, on était au dessert, que ses copines elles étaient là, ah, on est là et tout. J'étais à boire. Cette table, 4 places, quoi. Un dimanche,
ouais.
Dans le vent, quoi. Bref.
Bah, c'est un vrai sujet.
Ouais. Moi, je trouve ça. Nous, on installe que les groupes au complet, mais après, tu te dis, moi, je me fais défoncer sur les réseaux. Nous, on peut se faire défoncer sur les réseaux pour les trucs comme ça. Il y en a eu trop de trucs où on va être 4. Ok, ils sont où les autres? Ils arrivent. Ok, installez-vous. Commerçant, sympathique, bonne ambiance. 20 minutes, 40 minutes. Non, mais ils arrivent. 45 minutes. Et pendant ce temps-là, tu sais, les gens, ils attendent, ils mangent pas, quoi. Bref. Ouais, c'est compliqué. Faut pas trouver des solutions à tout. Ouais, maintenant, ouais.
C'est pas aujourd'hui qu'on la trouvera.
C'est clair. Bon, ici, on peut parler de. Du coup, vous êtes venus à deux, profitons-en. Tout ce que vous avez fait pas mal depuis. En plus, je trouve, moi, enfin, vous êtes quand même. C'était pas évident cette histoire, vous deux. Qui c'est qui a fait le premier pas?
Je crois que c'est moi.
C'est vrai?
Ouais,
je crois que c'est moi, parce que, en fait, on s'était rencontrés plusieurs fois et on avait sympathisé. Mais on
comment
avait...
En Julien qui venait manger?
Moi, je me rappelle. Oui, Julien qui venait manger.
Je suis venu plusieurs fois, je restais des soirs. En fait, voilà. On a toujours des gens entre nous.
C'est ça.
Qui, mais après, on s'était jamais posé.
Je connaissais un peu sa sœur.
Enfin, ok. Moi, ah oui, oui.
C'était ce qu'il faisait, etc. etc.
Ok.
Et un jour, c'était il y a 2 ans, au mois de février ou de mars, avec ma femme, on décide de faire un truc pour... L'anniversaire décalé qu'on n'avait pas fait pour moi, etc., le faire au printemps dans la maison de campagne.
Okay.
Et elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? On va être 20 ou 30 ou 40 ou 50. Et je lui dis, écoute, moi je veux bien faire un truc, mais j'ai pas du tout envie de me mettre à faire la côte de bœuf et des saucisses.
Ouais.
C'est une gaffe, quoi.
Ouais.
J'avais aucune idée. Je cherchais, toi, j'avais l'idée de trouver quelqu'un qui me fasse un truc, mais j'avais pas d'idée vraiment. Tu vois.
Ok.
Et puis je dis, mais tiens, Julien, là, j'avais parlé de trucs et tout. Ça m'avait interpellé une ou deux fois. Je l'appelle, il est à New York.
Ok.
Je lui dis, Julien, tu vois qui je suis, machin et tout, je chercherai quelqu'un pour faire un truc à la campagne dans 2 jours. T'as pas une idée? Il me fait, bah si, j'ai une idée, je vais trouver ça. Et il m'a présenté à Zdagbiet, 2 jours après, on était en contact, puis on a monté ça ensemble.
Ouais
moi je suis même pas persuadé que tu savais exactement ce que je faisais
pas
dans
du
la
tout.
Vie.
Mais pas du tout.
Mais il avait juste, ce qui me fait marrer dans cette histoire, c'est qu'il s'est juste dit, putain, je pense que ce serait une bonne idée de l'appeler.
Ouais. C'est vraiment ça, moi je savais pas ce qu'il faisait.
T'as tenté le coup, quoi.
Ouais, il m'avait parlé bouffe, de trucs, de machin, on avait sympathisé, et je me suis dit, tiens, celui, il aurait une idée.
Ouais.
Il cherchait une idée, en fait.
Ouais.
Et moi, je l'ai pris au final un peu comme une opportunité aussi, parce que moi, j'ai toujours respecté ton travail et tes lieux. Et du coup, c'était un peu comme un honneur pour moi de me dire, Ben, je vais t'organiser ton anniversaire. Tu vois, en plus, c'est cool. Un truc personnel.
Ouais, c'est perso,
toi,
c'est.
T'es 70 ans. Ouais. T'es délocalisé dans le Perche, donc un truc un peu intime et tout. Donc, moi. Et puis, je me doutais que dans tes amis, il y avait aussi cette génération aussi de la restauration avec qui je voulais me frotter, tu vois.
Bien sûr.
Et je me suis dit, très vite, je me suis dit, bah, faut quand même leur. À toi déjà, mais aussi à tous tes invités ce soir-là. Bah, vous apportez quelque chose de nouveau, quoi. Vous surprendre et pas aller dans les évidences, quoi. Et vous avez tout vu, vous mangez partout, chez les uns, chez les autres.
T'as proposé quoi, du coup?
Bah, on a parlé un petit peu. Je lui ai dit, bon, bah, quel est ton budget, machin, quelles sont quelles dates, etc.
Quelles des charges, quoi.
Mais très rapidement. Hein, et je me suis dit tout de suite, ce budget, je vais tout dépenser et je vais faire venir. Je sais pas pourquoi, et j'avais l'intuition, la très forte intuition. Qu'il fallait travailler avec Anthony et Sadie, mes amis de New York, du coup, le duo chef de Haas Dark Beer, qui cuisinent vietnamien-américain. Donc, je dis vietnamien-américain parce qu'ils sont aux États-Unis et que l'approche c'est les produits américains. Et c'est aussi une approche pas totalement authentique, mais sur les goûts très authentiques. Tu vois, c'est entre les deux.
Ouais.
Et tout comme il y a la cuisine italo-américaine, tu vois. Et je m'étais dit, mais ça va marcher. Ça va te surprendre positivement. C'est aussi. Le brief que je leur avais fait, c'était les codes un peu de la cuisine française, mais avec le kick de la cuisine vietnamienne. Et moi, je suis ravi que ça se soit hyper bien passé, parce que c'est un super moment.
C'était formidable. On a scotché, il y avait quoi, 70
personnes. Oh la vache! Ah, c'était un gros truc!
Oui.
Et donc, j'ai pris des billets d'avion pour Anthony et Sadie, ils sont venus, j'ai fait toute la logistique, tout ça. On a pris une voiture, on est allé dans le Perche, on a fait le marché la veille.
La veille, oui.
On a commencé la prep et tout, et puis c'était un honneur de faire ce dîner d'anniversaire.
C'était incroyable.
Ah ouais. T'as dû un peu halluciner quand t'as eu le coup de fil quand même, non?
Oui et non, oui.
Tu peux pas t'attendre à ce coup de fil. Quand t'as fait allô, t'as dû être un peu.
Ouais, j'étais honoré, quoi.
Ouais.
Je me dis...
D'autant que moi je savais pas qu'il était à New York. Je pensais qu'il était à Paris.
Ouais.
Et j'étais
honoré. Souvent à New York.
Bah, en fait, je l'ai pris aussi comme une reconnaissance de mon travail, tu vois.
De ouf.
Même si je savais pertinemment qu'il savait pas exactement ce que je faisais, mais il s'est dit que c'était une bonne idée. Donc moi, ça me suffisait, tu vois.
Ouais. Donc il y a cet événement, ça se passe hyper bien, c'est trop bon, tout le monde est content.
Et quelque part, moi je te mets dans le coin de la tête, comme je le fais souvent. Je lui dis, moi mon rêve, parce que ça s'est tellement bien passé que quelque part c'était le terrain parfait pour que je lui dise, bon Bertrand, ce serait sympa de faire un événement au Bistrot Paul Bert et tout.
Et toi t'es pas branché événement à la base. C'est non. Pas ta ouais.
Non.
Mais ce jour-là, elle a laissé une micro-porte ouverte.
Ok, tu t'es engouffré.
Je me suis engouffré un peu, mais.
Moi j'étais scotché parce qu'ils avaient fait.
Mais c'est ça qu'elle est bonne leur cuisine, parce que tu m'avais invité à un truc, tu nous avais invité avec Sarah un truc, je sais plus, c'était avec le grand four là, le parti intime avec cet endroit avec le four au fond là.
Ouais.
Trop bon.
Chez Simon.
Ah, c'est son lieu?
C'est toujours
c'était,
son lieu.
C'était son lieu, il a les murs en tout cas.
Ok. Il est cool ce lieu, il est incroyable. Bah, en parlant de lieu, on revient toujours à ce truc là. Quand je vais dans ce truc là, ça me fait un truc, avec ce grand four au fond et tout. Je suis allé plusieurs fois et c'est bizarre, tu vois, que ce soit là. Dans Paris.
C'était à la fois bizarre et normal.
Ouais.
C'est ça le sentiment que je voulais.
Tu as passé des bonnes soirées dans ce truc-là.
Ouais, j'ai adoré ce lieu.
Et c'était hyper bon. Pour revenir à ce.
Ouais, et puis ils sont fantastiques et ils ont aussi le très grand respect et l'admiration de cette cuisine rustique européenne, italienne, française, anglaise. Et ils sont très forts, c'est des génies. Ils s'imprègnent très vite des recettes, ils comprennent tout de suite pourquoi ces recettes existent. Et la manière dont ils ont twisté le truc, le boudin noir, il était
incroyable,
fantastique.
Incroyable.
Tous les plats. Vraiment, c'est un sans faute. Et il n'y avait que des gens qui connaissent, qui savent manger. Quoi.
On a mangé toute la journée. Hein.
Ah ouais.
C'est très drôle parce qu'on a commencé l'apéro vers 12h30. Et ils avaient fait une tonne de trucs pour l'apéro. Et on s'est mis à table à 2h et les gens pensaient qu'on avait fini. Il y avait eu tellement de trucs déjà à l'apéro que c'était fini. Quoi.
Wow.
Et les gens ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Après, ils ont envoyé, je sais pas, 10 ou 12 plats.
Non.
Ça durait jusqu'au soir. Le soir, c'était plus simple.
On a fait côte de bœuf le soir. Et
oh la vache. Ouais. Ah, c'est cool.
Non, ils ont fait un truc incroyable.
Et du coup, en très peu de temps, au final, je pense que j'ai un peu gagné la confiance de Bertrand. Et est venue l'idée de faire cette... Alors, c'était à la fois une journée au Bistrot Paul Bert.
Yes.
C'est un service du midi et du soir.
Yes.
Sur l'idée, le Bistrot Paul Bert réinterprété par Family First et Haas Dark Beer, mais un hommage plutôt, tu vois,
ouais.
Un hommage in situ. Et en collaboration avec Thierry, le chef, et on a sorti un super menu, c'était top. Et
c'était le bordel au Paul Bert quand comment t'as annoncé aux équipes, ok les gars, on fait ce truc là.
Ils sont toujours contents.
Ouais, ok, tout le monde était partant. C'est bien ça.
Ouais, franchement, ça m'a surpris d'être bien, aussi bien accueilli par le chef.
Que les gars et. Ouais.
Parce que généralement, tu te dis, ben, c'est un lieu un peu intemporel, tu changes d'un iota, quoi que ce soit.
Ouais.
Ben, c'est tout de suite compliqué.
Ouais, ouais, regarde, ça il est comme ça, regarde, là, on l'emmène à New York, il parle pas anglais, il est super content.
Ouais, ouais, ouais. C'est bien.
C'est cool.
Ouais, c'est cool. Même pour lui, c'est cool.
Parce que dans la suite de ça, du coup, il y a eu. On a fait 2 semaines de résidence au Spielberg pendant l'été, là, avec toujours les mêmes chefs. Ça a donné l'idée de revenir en septembre avec un projet plus long qu'on a appelé Bistro Tontine. Tontine, c'est mon projet à moi. Bistro Tontine, c'est devenu mon projet.
Ouais, bien sûr.
Avec Bertrand et Gwen. Où c'était l'idée d'une programmation de chef. Pas parce qu'on voulait faire une programmation de chef, mais parce qu'on voulait se frotter à plein de cuisines différentes et parce que les chefs qu'on voulait ne pouvaient pas rester non plus toute l'année. Et c'était hommage au bistro. Hommage au bistrot Paulbert, en fait, mais via des cuisines de chefs internationaux, indépendants, et qui ont une identité, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et ça a donné Haas qui est venu, il y a mon ami chef Baola qui a fait une cuisine vietnamienne, H qui a fait une cuisine chinoise, Akira. Futura avec Misaki qui ont fait la cuisine japonaise, italienne.
La fille formidable de. Qui faisait les nouilles.
Ouais, H.
H, ouais, oui, c'est
ouais,
ça,
ouais, qui a fait la cuisine chinoise, H de Berlin. Enfin, ça, honnêtement, on a.
Et Hans.
Et Hans, on a fini par Hans, qui aujourd'hui, hier, a reçu son prix Fooding de je sais plus quel prix, mais un
pour
super beau prix,
pour le cheval d'or. C'est bon, ah.
Et tu vois, je pense que le passage de Hans dans notre lieu.
À la cave.
À la cave et au bistrot Tontine, lui a donné la confiance nécessaire et la direction du cheval d'or aujourd'hui, tu vois.
Ouais, ouais.
Ça, j'en suis méga fier. Et c'est parce que c'était un laboratoire, c'était un terrain de jeu. Tu vois, c'était un truc où on disait, mais à la fois, nous, on est très présents et voilà, et on les laissait très libres de faire ce qu'ils voulaient. Après, on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc, des fois, avec Bertrand, on a des micro-désaccords et tout, mais bon, c'était pas non plus toujours, tous les jours facile. Mais,
bah oui.
Mais ça a donné, je trouve, honnêtement, pendant 9 mois du bistrot Tontine, une cuisine fantastique.
Et ça s'est tellement bien passé que vous remettez le couvert, du coup, là. Vous partez, vous remettez ça à New York.
Tu vois, moi, j'aime bien les petites portes ouvertes. Donc, moi, je lui ai glissé pendant l'année, je lui ai dit, tu sais que ce serait marrant quand même d'aller à New York.
Julien le glisseur, quoi.
Non, mais moi, je pense toujours un peu à l'après et tout. Et moi, à l'après, les États-Unis m'appelaient beaucoup, New York notamment. Et je sais aussi le public qu'a Bertrand et la réputation qu'a le restaurant aux États-Unis. Et je lui ai dit, ce serait marrant. Et pareil, il m'a laissé la porte un peu ouverte. Parce que je pense que tu me fais confiance maintenant. Et du coup, ça se réalise. On fait 3 jours du 27 au 29 novembre à New York, à Williamsburg, dans le restaurant Léo.
Ok.
D'un ami, Joey et Mike, deux amis, que j'adore et que je respecte beaucoup dans ce qu'ils font pour le vin, pour leur culture bouffe, elle est comme la nôtre. Donc, on se sent en confiance là-bas et ils nous laissent surtout un terrain méga libre de recréer un peu le match retour du bistrot Paulberg avec Haas Darkbeer à Paris, mais là-bas. Voilà.
C'est cool.
Ouais, c'est cool.
Vous partez quand?
Samedi. Moi, je pars samedi.
Jeudi. Parce que je vais un peu tâter le terrain avant.
Ouais, préparer tout ça. C'est bien. Trop cool. Ah, c'est bien. C'est bien que vous continuiez comme ça. Et Bertrand, franchement, respect d'avoir cette ouverture. Enfin, je sais pas, tu vois, il y avait quand même plein de raisons pour que ça se fasse pas, tout ça. Et au final, j'ai été.
C'est ce que j'aime chez lui. C'est
curieux.
Au final, c'est sa curiosité.
Ouais, c'est une curiosité.
Son ouverture d'esprit. Parce que. Pour être honnête, il y a beaucoup de gens de ton profil, de ta génération, qui ont des restaurants qui, honnêtement, sont
moins curieux.
Sont moins curieux et je dirais même, je serais plus méchant. Je serais qu'ils restent dans l'idée que cette cuisine doit rester d'une certaine manière, doit pas bouger. Ouais, prend pas en compte les nouvelles générations qui arrivent, quoi.
Il y a ça, mais il y a aussi pour minimiser tes compliments entre guillemets, c'est aussi le fait que. Pour nous, c'est plus facile parce qu'on travaille bien depuis longtemps. On n'est pas à se demander comment on va payer nos crédits.
Ouais.
On a une espèce de
tranquillité
d'esprit qui fait que si on propose un truc rigolo et que même si ça marchait pas et même si on perdait 3 francs 6 sous, c'est pas grave.
Voilà.
Il y a ça aussi quand même qui fait que c'est pas comme les gens qui viennent de commencer qui peuvent pas se permettre de.
Elle est chouette cette tranquillité. Moi, j'ai eu un tout petit avant-goût de ça là au bout de 10 ans. Ça y est, on commence un peu à poser un peu le truc. Et c'est pas tomber dans une espèce de complaisance et de fainéantise. Ça y est, c'est gagné, c'est jamais gagné de toute façon. Mais tu récupères un peu d'oxygène et tu stresses un peu moins pour les petits trucs. Et voilà, si y a un truc qui se passe.
On a un peu l'impression que tout va bien, on a gagné des sous, on n'a pas de problème d'argent. Ça peut arriver, on en a eu avec le Covid.
Oui.
Mais tout va bien, on peut rester sur un truc un peu plat, à se faire chier, et finalement, il va finir par descendre.
Ouais.
Le fait de trouver des gens comme Julien, ça te permet de te... C'est comme l'écriture, tout d'un coup, tu as des trucs qui sont griffonnés, Là, c'est au-dessus de la ligne. Allons voir ce qui se passe au-dessus de la ligne. C'est ça qui est important. Je veux dire.
Petite secousse des pieds.
Par exemple, Julien, il nous a fait, dans notre culture des huîtres, on les mange très classiquement, citron, machin, etc. Avec Asdagbiet et les autres chefs qu'on a eus avec Julien, ils nous ont montré qu'on pouvait les manger différemment, avec des sauces différentes, etc. On a appris des trucs.
Ouais.
Aujourd'hui, Gwen, elle a envie de mettre un plateau d'huîtres différent à sa carte, avec des sauces différentes et une manière de les faire différentes. Donc, voilà, c'est ça aussi.
C'est riche.
C'est riche, quoi.
Ouais, bien sûr.
Bah, si c'est pas un échange, je vois pas pourquoi on le fait.
C'est très important.
Bien sûr.
C'est très important.
Vous allez faire quoi à New York? Vous allez manger un peu aussi? Vous allez faire que travailler?
Ouais, bah, on en parlait tout à l'heure.
Bien sûr.
On
va manger. Hein.
Gwen, elle me montrait déjà les adresses qu'elle voulait faire.
C'est vrai.
Bah, c'est quand même. Bah, New York, c'est quand même.
C'est une ville de manger.
C'est,
hein.
C'est autre chose, mais il y a plein de choses très intéressantes. Il y a à apprendre. Il y a des choses horribles, mais il y a des choses fantastiques.
Peter Luger?
J'ai fait il y a longtemps.
Ça, c'est déjà fait. C'est coché.
Alors j'avais été reçu de manière formidable. On avait fait deux dîners pour Rezi chez Frankie's, qui sont des Italo-Américains à Brooklyn, et ils nous avaient emmené le dernier jour manger chez Peter Luger. J'avais trouvé que l'ambiance était incroyable, le lieu est incroyable. J'avais été un peu déçu par le côté envoyé à la va-vite, quoi, tu vois.
Ouais, il y a un petit côté jeté.
Par contre, super gentil.
Ouais, ils ont le sens de l'accueil quand même, rien à faire. Hein.
C'est vrai que... Moi, j'adore.
Ouais.
Service à l'américaine.
Ouais.
Mais que si habitué, c'est ça le problème.
Que tu retrouves au Canada. Hein.
Ouais, oui.
Montréal, c'est encore plus exacerbé.
Ah ouais.
C'est un truc formidable.
Vin mon lapin, qu'est-ce que c'était cool. J'ai bien beaucoup aimé ça à Montréal.
Marco, il a bricolé chez nous aussi.
D'accord, ok.
Puis il a fait des extras et tout, il était copain avec Louis-Philippe à l'époque.
Ok.
Moi, je suis très pote avec Marco et Vania.
Je me suis régalé, c'était. Et puis encore, on en revient toujours au même truc, mais le lieu, l'ambiance et tout, j'étais bien, j'avais pas envie que ça s'arrête, quoi. C'est vraiment un chouette.
Déjà, quand ils étaient chez Joe Beef, ils avaient relancé Joe Beef de manière formidable.
Moi, je les connais pas du tout, j'y suis allé vraiment, on connaît personne, bonne réservation, client lambda, et qu'est-ce que ça s'est passé Parce que tu sais jamais après si tu connais, tu te dis est-ce que ça se passe bien parce qu'on se connaît ou est-ce que ça se passe toujours bien? Là, c'était vraiment la preuve, moi je connaissais personne là-bas. Et on a été reçus, tu vois, et vraiment, qu'est-ce que c'était bon, ils étaient gentils, on a bien bu, et non, c'est un beau restaurant, très impressionné.
C'est classé meilleur restaurant du Canada, là.
Ouais, bah, mais c'est mérité, hein. c'était dingue. Vous n'avez pas trop froid? Je me suis un peu chauffé sur la clim,
non,
je crois, non?
Ça va.
Là, vous êtes bien? Ok. J'ai eu tellement chaud dans cette cave que je suis parti dans l'extrême inverse. De toute façon, les gars, on a fait un bon tour, je trouve qu'on a raconté un peu les débuts, la suite, maintenant, et puis même limite demain. Là, vous partez, donc je pense qu'on pourrait parler du Paul Bert pendant très très longtemps, mais ouais, moi je suis hyper content qu'on ait pu parler des débuts et de ces lancements, parce que c'est des lieux, ouais, que, comme ils persistent dans le temps, on connaît leur actualité, mais après, tu vois, le passé s'éloigne de plus en plus, et j'aime bien raconter les débuts des histoires comme ça. On a raté des choses importantes ou pas? Forcément, obligatoirement.
Ouais, c'est sûr.
Oui, sûrement, mais... Ce qui est important au Paul Bert, c'est les gens qu'on a rencontrés. Tu vois, c'est l'humanité, ce qui me paraît le plus important.
C'est ça qui fait... ouais, c'est ça
à la fois le respect qu'on a des gens avec qui on travaille, et le respect des gens qui viennent passer du bon temps chez toi, qui viennent dépenser de l'argent, et tu n'as pas le droit, quoi, de prendre ça de manière légère. Quoi.
C'est ma partie préférée, hein, franchement, hein, de restaurateur, mais je crois qu'on est tous d'accord, c'est... Les potes qui viennent ou les gens qui deviennent des potes, ou t'en as trop de chance, tu vois, de ces lieux, quoi, où tu rencontres des gens tout le temps.
Les lieux où tu es sûr de croiser quelqu'un aussi.
Ouais, tu te croises quelqu'un.
Sans faire un entre-soi de la cuisine.
Non,
la
c'est pas ça, mais.
Enfin, tu vois, là, à chaque fois, je croise quelqu'un. Ah, ouais. La restauration, ou des amis, des gens que j'ai pas vus depuis 10 ans.
Ah, ouais.
C'est beau, ces lieux-là.
Ouais.
Ah, puis il y a des gens qui nous ont raconté des histoires formidables aussi, tu vois. Combien j'ai de clients américains qui disent toujours la même chose. Ils disent le premier restaurant où on va en atterrissant, c'est le bistrot Paul Bert. Le dernier où on va avant de partir, c'est le bistrot Paul Bert.
Ouais, c'est le meilleur.
Tu vois, comment il s'appelle, Brahimi, là, qui est le chef emblématique australien qui a fait toute la coupe de rugby, qui a fait plein de spots pour la
coupe
de rugby. Il a sorti la même chose. Il a dit le premier restaurant où je vais, c'est chez toi, et le dernier où je m'en vais, c'est chez toi.
Comment tu justifies? Enfin, forcément, c'est très bon, et c'est un lieu, etc., mais. Ouais, je sais. Tu l'expliques ça ou pas?
parce que je pense que tu retrouves ce que tu avais perdu.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Tu vas retrouver le steak au poivre, la langue de bœuf, le souvenir que tu avais 300 avant, tu vas retrouver la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une espèce de... ce qui perdure dans le temps.
J'aime cette constance. C'est le plus dur aussi. Hein,
contrairement à des bistrots qui changent de chef, qui changent de format, qui font de la cuisine qui change tout le temps.
Ouais.
Où c'est pas sûr. Là, j'espère, les gens qui reviennent ne sont pas déçus.
Ouais, y a eu un gros engouement, je peux comprendre, hein, pour genre changer la carte tous les jours, ou toutes les semaines. Et... Même nous, on l'a fait à une époque et tout, mais en fait, c'est pas pour moi ces trucs-là. J'aime bien retrouver des plats. Et puis comme ça, tu peux vraiment les maîtriser, quoi. Comment tu peux maîtriser un plat que tu vas faire deux jours, puis demain il s'en va et on le remplace par un autre truc
T'as des gens très forts. Louis-Philippe Riel.
Il arrivait à toujours taper juste.
C'est pire que ça. Je l'ai eu pendant deux ans au 6 Paulbert. Il dictait sa carte à 7h30 le soir. Il ne savait pas à 7h20 ce qu'il allait faire. Et je n'ai jamais mangé deux fois la même chose.
Mais non.
C'est-à-dire que quand les saison de Saint-Jacques, il y avait de la Saint-Jacques tous les jours. Elle n'était jamais faite pareil. Jamais.
C'est fou.
Ça, c'est une force incroyable.
Ouais, c'est fou.
Mais ça fait un restaurant qui ne peut pas, pour moi, être un restaurant d'habitude.
Voilà.
C'est pas pareil.
Ouais.
En tant que consommateur, de client, l'approche d'aller au restaurant, elle est différente. Quand tu as un craving, quand tu as une envie de quelque chose, tu y vas avec... Bistro Paul Bert, c'est un lieu où tu sais un peu ce que tu vas manger. Tu es déjà content avant, pendant et après. Quoi,
tu vas gratter ce petit truc qui te gratte là. J'ai envie de ça, là. Tu vas le gratter.
Et le sentiment que tu as quand tu manges exactement ce que tu voulais manger, parce que tu as la mémoire du plat et du moment... C'est fantastique.
Ouais, c'est clair.
Répondre à un craving, c'est genre fantastique.
Mmh. Ouais.
Et j'ai une question pour toi. Le bistrot Paul Bert dans 10 ans.
Oh, tu vois, je t'ai dit qu'on posait pas des questions de journalistes. C'est toi qui ramènes des questions de journalistes.
Parce que j'ai envie de savoir. Enfin, 10, 15, 20 ans. Tu vois, comment tu le vois évoluer ?
J'ai pas d'idée. Moi, je sais que dans 10 ans, j'y serai plus. C'est sûr. Est-ce que quelqu'un de ma famille le reprendra ? Je ne pense pas.
T'as envie ?
Oui et non, c'est compliqué, donc c'est pas un cadeau non plus, tu vois. C'est un truc un peu lourd. Hein. Par contre, si jamais je m'en séparais, je ne le séparerais qu'avec des gens qui continuent la même chose.
Moi, je sens bien Corentin.
Je ne suis pas sûr.
Bertrand, tu dis c'est un peu lourd. Est-ce que des fois tu fantasmes sur plus faire ça ?
Ah non, pas du tout.
Tu te poses jamais la question de te dire. Moi j'y pense des fois, juste le sentiment que ça me ferait de plus être en charge, de plus avoir ces gens qui travaillent avec moi. C'est comme tu dis, tu l'as dit toi-même, c'est lourd.
C'est lourd, mais à côté de ça, c'est une drogue. Les gens qui viennent tous les jours, qui sont contents, pas contents. J'ai des gens que t'as pas vu depuis longtemps qui passent la porte, c'est aussi une drogue.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison.
C'est vrai que t'es toujours entouré. T'as beaucoup d'amour hein, tous les jours quand même. Des gens qui viennent te voir.
On est chanceux pour ça, c'est vrai.
Bien sûr. Moi, je dis toujours qu'on a une chance incroyable d'avoir des gens qui viennent dépenser de l'argent pour te faire plaisir.
C'est clair.
C'est un truc formidable. Quoi.
Non, mais c'est vrai.
C'est un truc formidable.
C'est vrai.
Il faut jamais oublier qu'ils dépensent de l'argent.
Ouais, c'est marrant. T'y penses, toi ?
Oui, je pense que c'est important d'y penser. Parce que pour eux, pour certains, ça peut être compliqué. Que c'est pas ça nous paraît facile, ça nous paraît pas très cher, etc. Plein de gens, ils font un effort pour venir chez toi. Je pense que tu leur dois ce respect-là. Quoi.
Tu te sens une responsabilité.
Oui.
Ouais, c'est bien.
Souvent, je le dis à mon chef, je me dis, ouais, c'est le petit menu, on s'en fout. Je dis, non, on s'en fout pas. Ils viennent dépenser 26 balles, mais on ne prend pas les tickets resto, donc ils dépensent vraiment 26 balles.
Ouais, ouais.
Et que pour eux, c'est un budget.
Ouais.
Et qu'on n'a pas le droit de se dire, oh, c'est pas grave.
Non, c'est vrai. Moi, ce truc-là, je le dis pour le premier et le dernier couvert. C'est dur, hein. Le premier, il sort nickel et tout. En plus, nous, on a des services qui sont longs. Ils dépensent la même thune, le premier gars et le dernier gars. Tu vois ce que je veux dire ?
Tu peux pas bâcler. Moi.
C'est dur. Hein. C'est vrai.
Il y a plein de choses où on est obligé à chaque fois. Tu vois, j'ai mon personnel. Tu vois, je dis n'importe quoi. On prend les couverts jusqu'à 2h. Deux mecs arrivent à 2h05. Les mecs, ils regardent la pendule. Je dis, vous foutez de ma gueule. Il vient traverser Paris. Est-ce que tu es sûr que ta montre et la sienne, c'est pas la même ?
Enfin,
t'as pas le droit de faire ça.
Tu
peux dire. T'as le droit de dire, monsieur, c'est trop tard, mais tu regardes pas la montre.
Voilà.
Trop tard parce que la cuisine est fermée, c'est possible, mais tu regardes pas le truc en disant, tu commences à me faire chier,
t'as
vu l'heure qu'il est, quoi. C'est honteux.
Oui, je comprends.
C'est honteux.
C'est marrant.
C'est des réflexes, tu vois.
Ouais. Très intéressant. C'est cool. Ouais. Bah.
Moi j'ai un autre sujet.
Vas-y, vas-y, balance, moi je te laisse conduire. Je réfléchis à tout ce qui se dit.
Je veux absolument pas faire de la fausse pub, placement de produits ou quoi que ce soit, mais.
Zenchef, 10 points.
Je travaille pas pour Zenchef. D'ailleurs, ils m'ont cassé les couilles au tout début de.
Voilà.
Quand on a utilisé. Bref. Il y a un sujet sur lequel tu as été curieux aussi, tu m'as laissé un peu faire, mais les produits dérivés. Je pensais pas que.
Oui, c'est vrai.
Au final, parce que je faisais que de lui dire, je disais, mais franchement, si on faisait un t-shirt, un truc sur, avec le logo du bistrot, les gens, ils seraient comme des fous, quoi. Parce que c'est vraiment pour les gens. Les gens, je pense qu'ils ont envie de prolonger ce moment.
J'avoue.
Émotionnel, affectif.
J'avoue.
Du beau moment, du bon repas au bistrot Paul Bert. Et de ramener un truc à la maison, quoi. L'assiette, elle est emblématique.
Bah, de ouf.
Non, l'assiette, elle est emblématique. J'ai des amis, ils l'ont. États-Unis dans leur cuisine, mais comme un cadre.
Quoi. Ouais.
Collé au mur. Donc
c'est... Mais c'est vrai que quand Julien m'a proposé ça, je ne dis pas que j'étais sceptique, mais moi, ça ne représentait rien pour
moi. Ça ne te parle pas, ouais.
Ça ne parlait pas du tout. Tu vois, j'étais dans 1000 restaurants aux États-Unis ou ailleurs, à Ibiza, où il y a les casquettes, les machins et tout, et j'avais toujours trouvé un peu.
Un peu ringue, quoi.
Un peu ringard. Le mec, il disait, bah, tiens, je t'ai acheté une casquette qu'on a bouffée là hier.
Ouais.
J'avais toujours l'impression que c'était un peu. Moi, c'est pas mon truc,
tu vois. Ouais.
Quand Julien m'a proposé ça, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, c'est quand même bizarre ce truc de bouddhisme. Et en plus, alors, j'avais une autre idée, c'est que pour moi, ça n'avait. Alors, contrairement à ce que je viens de te dire, ça n'avait d'intérêt que pour les gens qui pouvaient les acheter sur place pour les emmener.
Mm-hmm.
Je me dis, c'est quand même bizarre d'avoir un site où il y a des goodies, d'endroits où tu n'as jamais été, etc.
Mm-hmm.
Il m'a pas convaincu. Tout d'un coup, je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, écoute, évidemment, il est plus dans l'air du temps que moi, ce garçon. Il est plus jeune, plus dans la vie d'aujourd'hui. Essayons. Et on a fait un carton et. C'est vrai que c'est vraiment grâce à Julien.
Elles sont belles, ces peintures là que vous avez mis sur le t-shirt.
Ça, c'est l'idée d'un truc parce qu'on veut quand même faire des choses qui partent de qui a du sens, quoi. Et moi, tous les jours, tu sais, quand on se prenait le petit café le matin, enfin le midi, en faisant un peu un débrief de la veille et tout, ce café, et j'étais toujours face à ces tableaux, aussi Spolbert. Et un jour, je te pose la question et tu me dis, bon ben, c'est un ami dessinateur, peintre, Michel Tolmer, qui a fait ces tableaux. Je dis, ce serait sympa dans. Sur un t-shirt et tout, et c'est ce qu'on a fait.
C'est trop beau.
Ça a beaucoup de sens pour ça. Et les gens sont ravis. C'est surtout ça, tu vois, les gens qui peuvent repartir avec un petit truc ou acheter le poivre. Ça peut paraître, tu vois, en France, on n'a pas ce rapport au merch.
Prolonger l'expérience un peu.
Ouais, et moi, je trouve que c'est utile parce que les gens, ils sont ravis.
C'est ça qui compte, quoi, tu vois. Et moi, ça me fait rebondir, du coup, tu m'as donné une idée d'un truc que je voulais parler. Mais vous êtes. Tu disais qu'il y a pas mal de gens qui commencent leur séjour à Paris chez toi et qui le terminent. Donc ça sous-entend qu'il y a pas mal de voyageurs. Oui. Moi je les appelle voyageurs, je les appelle pas touristes. Et c'est vrai que nous on nous casse les pieds avec cette histoire de touriste. Olibelli c'est un truc à touristes, etc. Et il y a cette espèce de mal français un peu de toujours associer le touriste à quelque chose de pas qualitatif. S'il y a des touristes, alors c'est un mauvais restaurant, etc. etc., etc. Le Paul Bert, c'est la preuve que non. Je pense que nous, c'est la preuve que non. Il y a une espèce de gêne, de culpabilité avec le fait d'avoir des touristes dans son restaurant. Alors que si c'est un truc où il n'y a que des locaux, c'est fantastique. Alors qu'on sait toujours qu'il y a des Parisiens qui n'ont aucun goût et qui peuvent aussi très mal manger. Donc tu peux avoir un resto plein de Parisiens qui est dégueulasse. Et c'est très compliqué. Moi, je me vexe toujours avec cette histoire. On me le met dans les dents, cette histoire. Vous avez beaucoup de touristes, machin. Alors que c'est faux en plus, parce que des fois, on a du staff qui commence et les premières choses qu'ils disent au bout de 15 jours, c'est ah, la vache, c'est incroyable le nombre d'habitués que vous avez. Comment t'as fait ta paix avec ce truc-là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné, la présence des voyageurs au Paul Bert? C'est quoi ton rapport à tout ça?
Écoute, moi, je suis plutôt flatté quand des gens viennent du coup,
chez moi. Mais bien sûr, mais moi aussi, ouais. C'est plus le regard que les gens sur le.
Un jour, j'ai eu un gag. J'ai eu une jeune femme américaine, super jolie, qui arrive au bar, tu as planté sur des escarpins et qui me dit, dans un mauvais français, elle me fait, c'est quoi ce restaurant? Qu'est-ce qui se passe? Elle me fait, il n'y a que des Américains. Mm-hmm. Dis, vous venez d'où? Dites, Dallas. Bah, vous devez me répondre à votre. C'est à vous de me répondre.
Ouais.
Vous êtes... Ce jour-là, je me suis dit, il faut oublier ça.
Mais elle, ça la faisait chier.
Elle, ça la faisait chier.
Ouais, voilà.
Ouais, tout à fait.
Tu vois?
Avait l'impression qu'elle était tombée dans un truc qui était fait pour eux.
Elle voulait son expérience parisienne, machin.
Alors chez nous, il y a un autre truc, ils n'arrêtent pas de me casser les pieds avec ça et. Pas bien, mon TPT, c'est qu'on a deux salles très différentes, une qui est nappée, une qui n'est pas nappée. On ne fait aucune différence avec ça.
Comment nappée, pas nappée, ça veut dire. Ah oui, il est sur les tables. Excuse-moi, bien sûr.
Ouais.
Et l'autre,
il n'y a pas de nappe.
D'accord.
Donc, ils disent, ah, ben vous mettez les Américains, là, il y a des nappes et les Français, ils ont droit à une table en bois.
Casse-pieds.
Non, c'est au hasard. Je veux dire, c'est vraiment au hasard.
Ah. Vois,
À un moment, c'est dire, on va tout napper. Je dis, je vois pas pourquoi je changerais pour ouais. plaisir à trois imbéciles.
Bien sûr.
Et dénapper non plus. Donc, on est resté comme ça. Mais tu sais, les gens, ils ont toujours besoin de trouver un truc qui va pas.
Quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Moi qui suis un peu vieux, tu vois, j'ai vite fait l'envie de leur dire que si vous n'êtes pas content.
Oui, 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 oui. Oui
allez
oui.
ailleurs, quoi, tu vois.
Mais c'est vrai que...
Tu l'as déjà dit.
Je l'ai dit mille fois.
et pourtant, reviennent.
Et je n'en ai aucune gloriole, mais j'en ai viré 50.
Ouais. Mais c'est que ce rapport aux voyageurs, aux touristes, c'est casse-pied. Tu sais, des fois, je prends un coup de fil et ça capte mal dans le resto, donc je me mets devant. Et du coup, t'écoutes un peu ce que les gens disent en passant, tu vois. Et ah, c'est le truc où il y a des touristes et tout, machin, je suis là. C'est tellement diminutif, en fait. Il se passe tellement plus que ça, quoi. On parle, viens, on parle de la cuisine, viens, on parle du sourcing, viens, on parle de, tu vois, de tout ça. Pourquoi et j'ai l'impression que, tu vois, le seul truc un peu intéressant qu'il trouve à dire, c'est genre, il y a toujours des touristes, etc.
Alors
et
que je pense que Bertrand, il a super bien répondu. S'il vient du bout du monde, c'est,
ah bah, c'est hyper. Aussi, exactement, mais on arrive à mettre un espèce de twist négatif là-dessus. Ouais, hyper casse-pied, quoi. Ouais.
Bon, moi, je suis super fier, hein. Et d'autant que dans ces voyageurs qui viennent chez nous, il y a énormément de gens du monde de la cuisine, ce qui est encore c'est puissance 2. Quoi.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Il y a des chefs dont j'ai jamais entendu parler qui sont là à me dire on fait un selfie, machin, tout. J'ai envie de leur dire, mais je suis pas la vierge, quoi. mais c'est mais enfin, à côté de ça.
Ils s'en rapprochent le plus en temps.
Je leur fais toujours avec plaisir parce que c'est vrai que c'est une reconnaissance.
Bien sûr. Quoi, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, c'est vrai. Le mieux, c'est quand t'as. Quand t'as des habitués internationaux, de ces habitués de quartier, oui, qui viennent manger hein, une fois le mardi, une fois le vendredi, c'est cool. Mais des gens qui viennent manger tous les ans, tu vois, des trucs comme ça, et tu commences à avoir des habitués.
J'en ai plein.
Ouais, c'est marrant ça. Hein.
J'ai un couple, elle, c'est drôle parce qu'elle est américaine, elle habite Los Angeles, et plus américaine, tu peux pas imaginer. Le hasard veut qu'elle a passé 6 mois à Quimper quand elle avait 15 ans, je sais pas pourquoi.
Ok.
Donc, voilà. Elle vient avec son mari, ils font. Demi-tour du monde tous les ans, il passe 3 semaines à Paris.
Ok.
Eh bien, les 3 semaines où elle est là, elle veut la table numéro 8 à 9h le soir pour 2.
Arrête.
Elle m'envoie un mail, 2 mois avant, elle me fait Bertrand.
Non.
We are coming. We'd like half the table.
Non.
Depuis 5 ans.
Arrête.
Patricia Brandt.
Ça, c'est incroyable.
Patricia Brandt.
Bonjour, Patricia.
Patricia, shout out. C'est incroyable. J'aime bien les histoires comme
mais
ça,
c'est
moi.
Beau,
c'est génial, c'est
vois,
génial.
C'est par mail, en plus.
Ouais, c'est trop bien.
Et elle me like sur Instagram tous les jours, toutes mes photos. Elle m'a so nice, so good. Je vois avec des petits cœurs, des machins et tout. C'est une dame qui a 60 ans. Hein, c'est pas...
Tu reçois des messages bizarres sur Instagram ?
Ah ouais, vas-y, raconte.
Non, franchement pas.
Non.
Dès que j'ai un truc que je trouve. Où je comprends pas bien, où je trouve que je pense qu'il y a un truc négatif, je vire dans l'instant.
Tu dégages le truc. Ouais. Ah, on vous tourne autour un peu. Tu sais, les trucs qui marchent bien, ils se font souvent tourner autour. T'as dit, tu vois ?
Je connais que pas trop. Voilà.
Ça va.
Oui.
T'as dit quoi, tu ?
Pas trop.
Non, ça va. On te laisse tranquille.
Ouais.
Casse les pieds, moi.
Bah, je pense qu'on a peur de l'approcher.
Ouais, c'est bien. Tu crées un peu ce mystique.
Franchement, j'ai pas grand chose.
Ouais, ouais.
Si j'ai un poste sous les 2 mois qui me dérange, que je vire, ça
serait. Ah non, je pensais pas à ça, mais tu sais, les gens. Qui était un peu les sangsues, quoi. Vous voulez pas faire ci, vous voulez pas faire ça, je sais pas, tu sais, genre. J'ai l'impression d'être démarché H24, moi,
non,
en ce moment.
Non.
Démarché tout le temps. Ils veulent vendre des trucs, des machins, des solutions, des
chefs. Tu sais, moi, la réponse, moi, elle est facile. Il y a des gens qui, tout d'un coup, veulent me vendre des légumes, des trucs, des machins. J'ai écouté, j'ai organisé depuis 20 ans, il fallait venir avant, quoi. J'ai pas changé d'un matin. En plus, moi, j'ai un côté. Fidèle, c'est sûr. Tu vois. Moi, j'ai le pain de Pougeron depuis 25 ans. Okay, je suis copain avec lui, etc. Son pain, je le dis là, franchement, il le sait, il a été moyen pendant 6 mois. Jamais j'ai pensé que j'allais changer de bonne.
Bah oui.
25 ans, je travaille avec toi, t'as des merdes dans ton fournil, on va attendre.
Bah oui.
On va se démerder.
C'est
quoi,
ça aussi, le. Ouais, ouais, ouais.
Un truc, tu changes pas d'amis ?
Non.
Hein ?
Oui. C'est très bien dit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Intéressant. Très cool. Jules, t'as encore des petites questions ?
Ah, on dit, je pense qu'il faut arrêter. Parce que. On a faim.
C'est
ah,
bien
non,
dit. Ouais,
non,
c'est
vrai qu'il
on a fait le tour quand même.
On a fait un bon tour. Bah, merci, en tout cas, c'est hyper. C'est encore une preuve de plus de ta curiosité d'être venu et on se connaît pas et donc venir se faire filmer, enregistrer pendant 1h30.
Moi, je voudrais que
c'est pas pour tout le monde.
Une dernière chose.
Ah.
Qu'est-ce que tu m'as répondu quand je t'ai demandé. Pourquoi tu as créé. Comment s'est créé le bistrot Paul Vert ?
Ah, c'est vrai, j'ai même pas posé cette question. Vas-y, moi, ouais.
Tu m'as dit un truc très simple.
Mais par amour.
Voilà.
Ah ! Oui, parce que c'est ça, en fait.
Évidemment. C'est une histoire d'amour.
Oui. c'était pour pouvoir vivre et travailler avec ta compagne.
Toi qui travailles avec, Sarah, du coup, vous deux en binôme, entrepreneur et tous les jours. Tout à l'heure, Gwen, je lui posais la question, elle m'a dit, mais parce qu'on voulait être ensemble. On voulait travailler ensemble. Vrai.
Moi, j'avais une vie. Moi, j'ai rencontré Gwen, j'avais 40 ans.
Ok.
Elle avait 25, j'avais 40.
Ok.
42, on a 17 ans d'écart. J'avais déjà divorcé deux fois, j'avais déjà eu des mômes, ça s'était bien passé, mal passé, j'avais eu plein d'aventures, j'avais bossé dans des endroits pas possibles. Quand tu recommences à 40 balais, il faut trouver un truc qui marche. Quoi.
Ouais.
Donc, j'avais fait. Dans ma thèse, j'avais fait une espèce de liste de ce qu'on pouvait faire et pas faire, et je savais que. Si tu bossais pas avec quelqu'un, ça marcherait pas.
Ouais, tu te croises le matin, tu te croises le soir.
On a toujours été très fusionnels, donc on avait décidé que ça serait comme ça.
Ça, c'est la question en interview qui revient tout le temps. Bah, pour moi, ça arrive tout à l'heure. C'est comment de travailler en couple. Mais enfin, tu vois, les gens s'attendent à ce que tu te dises, ah oui, c'est compliqué et tout. Mais moi, je trouve ça. C'est une chance.
C'est magique.
On en revient à cette heure de chance. On a de la chance, quoi.
Je disais tout à l'heure, je veux dire, regarde Frenchy.
Ouais.
Il travaille en couple, c'est formidable. Ah. Le Villaret, il travaille en couple, c'est formidable.
Ah.
Le repère de cartouches,
le Rigmarole, c'est clair.
Ils ont mis un truc encore au-dessus de ça, c'est que leur vie privée passera toujours avant leur vie professionnelle. C'est encore plus fort. Il n'est pas arrivé à ça. C'est notre vie professionnelle a souvent quand même
pris le pas
sur notre vie privée. Mais il n'empêche.
Le perche, c'était pour protéger un peu le privé aussi. C'était une décision.
Le perche, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Gwen. Elle a une maison en Bretagne, ses parents sont agriculteurs, elle est associée avec son frère, donc il y avait une espèce d'attache forte sur la Bretagne, et on voulait créer un truc qui ne soit pas en Bretagne.
Ok.
Qui soit vraiment à nous.
Ok.
Donc, et on s'est dit, finalement, c'est sur la route, donc tu vois, on peut passer 3 jours dans le Perche et aller en Bretagne, ou le contraire, mais c'est un truc qui sera vraiment comme on voulait le faire.
Ouais.
C'est vraiment notre truc.
Ça n'appartient qu'à vous.
Oui, absolument.
Nous, le perche, c'était pour ça. C'était pour que de temps en temps, le perso prenne le pas sur le pro. Parce que si t'es à Paris, eh ben, tu décroches le téléphone. S'il y a une fuite d'eau, tu vas au resto.
Ah oui.
Et s'il y a 130 km, tu peux pas.
Et nous, on a ça en Bretagne, puisque la maison qu'on a en Bretagne, il y a un resto en dessous. On fait tourner. Plus à Gwen qu'à moi, elle s'en occupe. Il n'empêche que, dès qu'il y a une merde, on est au-dessus. Bah, Bertrand, tu peux venir voir.
C'est pour toi.
On passe l'été à prendre la tête.
J'ai longtemps fantasmé à habiter au-dessus du resto parce que
une grande erreur.
Mais t'as un truc dans le perche aussi?
Ouais, on a avec en 2019 on a acheté.
Et où?
La Croix du Perche, c'est vers Brou.
Ah oui.
Ouais.
On est à Colonnard-Corubert.
C'est où?
Nocé.
Ouais, d'accord. C'est beau, hein. On a de la chance. Une fois de plus, on a de la chance. Hein.
Ouais, on a de la chance. Puis autour de nous. Pas grâce à nous, mais il y a un agrégat formidable. Il y a Sven qui a monté son resto.
Ouais.
Il y a Après l'école que moi j'adore.
Après l'école que j'adore.
Il y a maintenant Silo à Mortagne.
Ah, pas fait encore ça.
Formidable.
Ok.
Ça a l'air chouette. Ouais.
Ouais, ça a l'air très bien.
C'est ça. Nouveau ça. C'est assez récent.
Ça a deux mois, trois mois.
Oh, ouais, ça j'ai pas fait. Ouais. Non, c'est vrai qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien.
Il y a du Nil.
Du Nil. Moi, j'ai toujours bien déjeuné à du Nil. Oh, ouais, c'est clair.
Oui, bien sûr.
Et cette main, et tu rentres à Paris, t'es content, je trouve, tu vois.
Nous, on y va moins en ce moment. N'y arrive pas.
Ouais.
Et ça me manque.
Ça me manque, ouais, c'est ça. Et ça me fait aussi réapprécier rester à Paris le week-end, parce qu'à un moment on allait dans le Perche tous les week-ends.
C'est pas à Paris, donc.
Tu vois, hein?
C'est pas à Paris le Perche.
Ouais. Ça commence à devenir. Mais tu vois, ce week-end c'était là genre viens on reste, et j'étais là oh tiens week-end parisien, et c'était chambé, tu vois. Tu revois, enfin c'est une chance de dingue, hein, mais de pouvoir, je sais pas. Tu sais, à un moment c'était, je sentais que je tirais un peu la langue, et je me suis dit soit on fait ce truc là. Et je peux continuer au Libelli X années et Paris X années, ça m'apporte cet équilibre et cette recharge, ou alors ça va plus durer très longtemps, quoi. Tu vois, il faut un moment, je pense, avoir cet exutoire, pas parce qu'on n'aime pas la vie qu'on a, mais parce qu'elle est intense, et là-bas, tout se pose, quoi.
Alors nous, en plus, on a fait des potagers pour les restos là-bas. Donc...
Arrête. Raconte rapidement, mais c'est intéressant.
Non, on avait pas mal de. On a acheté des propriétés où il y avait 5-6 hectares,
okay.
On a les chevaux parce que ma fille monte beaucoup à cheval.
Ok.
C'est trop con d'être à la campagne et de pas avoir faire des légumes propres et sains, quoi.
Bah ouais.
Je crois qu'on a été avec Passard, on a été un des premiers, quoi.
Ok.
On l'a fait d'une manière moins carrée que Passard, et on a un salarié à l'année, et on fait un demi hectare de potager.
Ça va au Paul Bert ou pas?
Oui.
Un petit peu, ouais. Ouais, si, quand même.
Tant que ça produit, ça va au Paul Bert.
Ouais.
Ça, j'ai jamais communiqué trop dessus parce que
tu peux pas le garantir H24.
À 100%.
Ouais, voilà. Ça, c'est trop bien, j'aurais bien aimé faire
et
ça.
C'est cool, hein.
Ouais, c'est super cool. Hein.
Tu vois, quand le mardi matin, là, le mec arrive avec la camionnette, on met tous les légumes par terre, les gens, ils sont comme des fous.
Hein. C'est trop bien. Même toi, c'est chouette, ouais, quoi. Hein. Ouais. C'est un super projet. Là, je savais pas ça. C'est vrai que t'as pas beaucoup communiqué dessus. Mais c'est bien comme ça, ça. Très cool.
Jus de pomme.
Jus de pomme ? Ouais. Regarde, on a de la pomme aussi. On a trois pommiers. Qu'est-ce que ça donne, la
ça
vache
donne, hein, donne.
Ah ouais, ouais. Oh, c'est magnifique, le perche. Franchement, on a beaucoup de chance.
Il y a beaucoup de gens, hein, maintenant.
Ouais, ça commence, hein.
Comment il s'appelle, l'Italien qui a acheté les maisons?
Oui, ah ben j'ai vu, il a posté ce week-end, non? Je t'ai dit, tiens, lui aussi, Giovanni.
Giovanni.
Ouais, ah ouais, j'ai vu ça aussi.
Pacerini,
ouais. Et j'ai vu ça, j'étais là. Ah,
il est sous Mortagne.
Mais en fait, c'est pas con, parce que c'est pas très loin, et c'est beau.
C'est encore pas trop cher.
Et c'est pas trop cher. Et tu sais, ce qui m'a plu, c'est que c'était. Ça a été un peu protégé, je trouve. Ça a encore vraiment ce côté.
On est tous en guerre, hein. Ils veulent mettre des éoliennes partout. Hein.
Ah ouais, je savais pas. Ouais. Mais tu vois, plus la Normandie, tout, je trouve que ça, t'avais, ça a pris cher pendant la guerre quand même. Tu vois, je trouve qu'il y a des trucs cassés, il y a des coins qui sont tristes presque, oui, encore, tu vois. Alors que le perche, personne n'y a touché depuis quoi, le Moyen-Âge, tu vois. Du coup, quand t'es en forêt, quand t'es en machin, c'est des vieux coins, quoi.
Je sais pas, je n'y habite pas.
Mais viens nous voir. Mais t'es allé chez Bertrand.
Oui, mais non, mais j'adore aussi.
Et puis je t'ai vu chez Duny, hein, mangeant chez Duny.
Oui.
Ouais.
Il a des attaches
bien
dans le perche.
Ouais.
Ouais, j'en ai eu, ouais. On est toujours un peu.
Oui, je suis sûr.
Non, c'est très cool. Ouais. Parfait, les gars. Bah, merci beaucoup encore une fois. Et
c'était super.
Bah, je suis content que ça t'ait plu. J'avoue que c'est toujours un peu. Je sais pas, il y a toujours un peu d'appréhension de recevoir quelqu'un. Tu dis comment ça va se passer, mais j'avais pas trop de doutes quand même.
Ah, mais c'est toujours agréable de parler des choses qu'on aime. Hein.
Ouais. C'est vrai. Et ouais. Bah, merci d'avoir partagé avec nous, Jules. Merci d'avoir organisé cette rencontre. Encore une victoire de Family First.
C'est ça.
Et puis vive le pôle vert, vive tout ça. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Je ne sais pas du tout. Je suis encore en bataille pour faire venir Ten Bells, finir par y arriver. Et puis si vous avez des idées, envoyez-moi des messages et on essaiera de faire venir ces gens-là. Bonne soirée, à bientôt.
Super, merci.
À bientôt, bye bye, merci. Bientôt.